102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon midi. Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Les prises précisément midi et une minute. J'ai eu de la misère à le dire un peu. C'est la vie.
C'est peut-être parce qu'il fait froid, t'as la bouche gelée.
Ouais, c'est ça. 418-971-101 si vous voulez nous rejoindre. BLVD.fm, c'est la web radio. On retrouve également les meilleurs moments de l'émission. L'application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. D'ailleurs, téléchargez-les. Des petites notifications, des fois bien intéressantes. Et twitch.tv/BLVD/FM. Les filles, on jase de quoi? Le plus souvent, autant en hiver qu'en été au Québec.
La météo!
La météo! Et voilà! Donc, on va en jaser de la météo parce que c'est moins 23 avec le refroidissement éolien présentement. Moins 17 au thermomètre. On prévoit un maximum de moins 14. Demain, c'est moins 6 avec une neige intermittente. Des vents de 20 km/h. On parle d'une accumulation de 2 à 4 cm. Et moins 5 avec de la neige également pour jeudi. Donc, préparez-vous à pelleter. Aujourd'hui, mettez-vous une petite cagoule au visage si vous êtes piéton comme Max Larouche parce qu'il fait frette pas à peu près. Je vous le dis. Et là, on a perdu quelqu'un de très important au Québec. On en parle dès le début de l'émission. Il s'agit de Béatrice Picard, mieux connue sous le nom de Marge Simpson, parce qu'elle était la voix de Marge durant 30 ans, parce qu'elle s'est vue.
La voix officielle de Marge Simpson.
Ça me fait de quoi?
C'est une femme qui, en plus, quand tu l'écoutes parler, tu peux entendre dans son grain de voix que ça peut être une Marge
Vraiment?
Simpson. Mais quand elle commence à parler comme son personnage, puis c'est le visage que tu vois finalement de Béatrice Picard, ouais. Ça démontre l'ampleur de son talent. C'est une femme aussi qui a prêté sa voix aux pierres à feu dans les années 60. Mm-hmm. Elle faisait la mère de Delima. Très active dans l'univers du doublage. Honnêtement, elle en a fait une grande partie de sa carrière, mais plein de distinctions aussi. T'sais, c'est une femme qui a enrichi notre culture. Elle a eu le titre d'officière de l'Ordre national du Québec en 2012. Elle a été aussi membre de l'Ordre du Canada. Si on retourne il y a plusieurs années, peut-être dans ta ouais. génération, Jeff, mais encore là, avant, on pense aux survenants, aux petits noms du père Gédé, de la rue de Lens, Cré-Basile, je pourrais aller dans quelle famille, dans Saint-Forien, grand-papa du tac au tac. Là, si on s'en va un petit peu plus près de nous, un gars, une fille, Virginie, Unité 9, Les Jeunes Loups et récemment District 31. C'est une femme qui a traversé les générations, les années.
Oui, elle a joué vraiment dans des très, très grandes téléséries ici au Québec, là, les dernières que tu as nommées. Unité 9, District 31, là, c'est vraiment des téléséries qui ont marqué l'imaginaire québécois. Là, alors que, surtout Unité 9, on est dans une prison pour femmes. Là. Je me souviens, c'était très, très, très regardé là, dans les foyers québécois.
C'est une femme qui a fait simultanément de la radio, de la télévision, du théâtre, du chant, du doublage. Et bien sûr, du cinéma. En 1929, c'est là qu'elle a eu la piqûre pour tout ce qui est la culture, mais mm-hmm. du côté de Paris. Puis après ça, elle est revenue et elle a dit « C'est ça que je fais. C'est ça que je vais faire de ma vie. » Puis elle a marqué à peu près tout le monde. Écoute, la dernière fois qu'on a vu Béatrice Picard peut-être imprégner ses rôles puis imprégner son métier, c'est en mai 2017. Elle a eu un malaise sur scène au théâtre Jean Duceppe, c'est du côté de Montréal. Elle jouait dans Harold et Maude. Puis là, 3 jours plus tard, elle dit qu'elle s'était remise de ça, mais tu sais, concrètement, sa santé en avait pris un coup à ce moment-là.
Exactement. Donc, 93 ans, si...
16.
96 oui. ans, wow! Extraordinaire. Ici, par texto, on a Yvon Deschamps et Dominique Michel. Ça va être les deux grands pans de l'histoire qui vont partir peut-être bientôt, qui vont partir.
C'est parce qu'on en parlait, Max et moi, puis on disait, c'est qui ça. Est-ce qu'on oublie? T'sais, Serge Fiori, on savait qu'il vieillissait, on savait qu'il était malade, mais dans notre tête, c'est un immortel. Mm-hmm. Serge Bouchard, t'sais, pour certains qui connaissent l'homme aussi, c'est un gars qu'on est allé rechercher au niveau de l'opinion en pleine pandémie pour le transfert de savoir, la vision du monde, etc. C'est un grand penseur, c'est un anthropologue, hyper intéressant. On l'a perdu. Ouais. On commence à perdre
Exactement.
Les pas importants de la culture qui était la même pour tout le monde.
Ouais.
On était encore dans ces années-là avec Béatrice Picard et tout ça, dans les rendez-vous télévisuels où tout le monde partageait le même moment, donc partageait un peu l'admiration qu'on avait pour ces gens-là.
Exactement. Donc, Béatrice Picard qui est décédée, on souhaite les sympathies à la famille et à la communauté artistique ici au Québec. Pascal, ça va bien?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi.
Ben oui, ça va super bien. On a une belle émission. On va parler avec Roger Ferland, notamment de cette poursuite de 2 millions de dollars de la famille du jeune Noran, 15 ans, qui a été abattu par la police de Longueuil, par un policier à Longueuil. Donc, on va parler de ça. Également des excellentes statistiques à Québec au niveau des arrestations liées aux gangs criminalisés. Extraordinaire travail en 2025 de
plus
notre service policier.
Ah, ouais.
On peut vraiment être fiers de notre service policier. On va avoir Mario Fafard également, un ingénieur, un ancien professeur également à l'Université Laval, qui va venir nous parler du pont de Québec, du tablier qu'il faut remplacer, mais qu'on ne remplace pas. Est-ce qu'on va être à risque? C'est une bonne question à se poser. Puis est-ce qu'on va le remplacer en même temps que le pont Pierre-Laporte puis boucher tout? Pont Pierre-Laporte est prévu pour 2037. Faudrait peut-être commencer par le pont de Québec. Donc, on va parler de ça avec lui. Et Rémi Villemur va venir également nous entretenir, notamment sur la confiance, ou je devrais dire la non-confiance des jeunes envers les médias, des jeunes de 18 à 34 ans envers les médias traditionnels, et aussi du mot « masculinisme ». Qui a été recherché 8 fois plus souvent en 2025 qu'en 2024. Pourquoi donc? Netflix, adolescence? Est-ce justement une raison? Rémi a sa petite opinion là-dessus. Mais avant, on commence avec le caucus avec Antonine Iaccarini.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Ah, Bernard. Jason, autre chose que Pablo. On va parler de Bernard Drainville.
Ouais, le Pablo prend une pause aujourd'hui, tout le monde.
Ouais, je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment. Est-ce que vous ennuyez de Pablo Rodriguez? 418-971-1021, s'il vous plaît. Really, oui, j'aurais aimé ça, moi. Pablo qui fait une conférence.
Ouais, désolé pour aujourd'hui.
Non, pas grave.
Aujourd'hui, on vit au rythme de l'accélération des projets.
Oui!
Alors, c'est aujourd'hui que sera déposé un projet de loi qu'on surnomme Q5. Mm-hmm. C'est un surnom parce que les projets de loi à Québec ne commencent pas par Q. Là. C'est une référence à ces 5 projets de loi qui avaient été adoptés dans la courte session parlementaire du printemps par le gouvernement Carney, qui vise à accélérer les projets d'intérêt national. Donc, Québec qui veut un peu s'accrocher à la locomotive fédéral pour faire son bout. Parce qu'on le sait, on a de la difficulté au Québec à faire atterrir des grands projets. Il y en a beaucoup qui font patate, soit que c'est trop long, le financement n'arrive pas, en fait, l'argent n'arrive pas en même temps que les autorisations. Il y a l'acceptabilité sociale aussi, qui est un concept flou et mal défini, qui est utilisé là, selon le bon vouloir de tous et chacun. T'sais, par exemple, le tramway à Québec, c'est un projet qui avait été refusé par le BAP, mais tous les gens des partis de gauche sont pour.
Les
sondages sont contre, mais on est pour. En tout cas, bref,
on est pour, mais finalement, on vote à 50% pour Bruno Marchand, puis on va le faire.
Donc, ça demeure super flou, cette question d'acceptabilité sociale, mais une chose est sûre, c'est que François Legault veut profiter du momentum pour faire certaines actions que je pense qu'il a toujours un peu rêvé faire.
Oui, en effet.
Donc, simplifier des processus, accélérer des autorisations environnementales, notamment. Dans les dernières semaines, depuis le discours d'ouverture du PM à la suite du remaniement ministériel, il avait donné le mandat au ministre des Finances, Éric Girard, de faire le tour un peu pour voir sont où les obstacles, sont où les irritants. Donc, d'un côté, puis j'arrive à Bernard dans pas long, parce que je sais que t'as hâte qu'on parle vraiment plus de Bernard.
Ah, j'ai tellement hâte, Bernard!
Donc, on va essayer de trouver des façons que les projets aillent plus rapidement. Maintenant aussi que le fédéral a dit qu'il allait accélérer, bien, c'est un momentum qu'on doit saisir. On s'attend à ce que ce projet de loi-là s'adresse beaucoup à Hydro-Québec parce que c'est un peu la pierre angulaire de comment François Legault veut faire face à la crise commerciale, au soubresaut économique. On veut donner beaucoup, beaucoup de grands projets à Hydro-Québec.
Mm-hmm.
Moi, j'espère que ce ne sera pas seulement ça, par contre, parce qu'on a des entreprises privées qui voudraient venir investir, mais qui se butent à un paquet de choses. On n'a pas un environnement d'affaires très facile.
Ah non, on a une fiscalité très déficiente, là. On a une bureaucratie imposante. On a une bureaucratie beaucoup trop grande. Et là, on ajoute à ça justement tous les délais pour mettre sur pied un projet.
Délais, manque de coordination. Il faut dire aussi, on fait partie, on a la tarification carbone par la bourse du carbone. Donc, si tu es un grand pollueur, en plus, tu dois payer. On peut ajouter à ça nos lois sur la langue française quand tu es une entreprise étrangère, et c'est bien correct. Mais tout ça additionné fait que c'est pas toujours évident d'avoir des projets qui atterrissent. En parallèle du projet de loi d'Éric Girard, qu'on va voir cet après-midi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Oui, 15h, il va être en entrevue avec nous à Marceau le matin, demain matin, 8h30.
On va pouvoir vous expliquer plus en détail comment ça va fonctionner, puis concrètement, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce qu'on va voir des grands projets qui vont s'accélérer? Parce que c'est un peu ce qu'on se demande quand on regarde au fédéral. On a une liste de projets qui a été dévoilée. Mais est-ce que ça va vraiment accélérer? Est-ce qu'on va voir les choses aller plus rapidement? Tout le monde se pose la question. Et en parallèle de ce projet de loi d'Éric Girard, il y a aussi Bernard Drinville, ministre de l'Environnement.
Avec son PowerPoint hier, sa baguette d'enseignant. Ben, tu sais, il s'ennuie.
Il avait des napperons, là, Jeff. Il avait des napperons.
Puis là, il s'ennuie d'être ministre de l'Éducation. Donc, Bernard nous a
le
fait
pédagogue.
Un cours pédagogique sur les délais en environnement.
Ben, c'était bon. Là, les gens, ils rigolaient un petit peu là, avec les tableaux puis tout ça, mais c'est de la bonne communication, c'est clair.
Oui. Non, mais vraiment, vraiment clair.
Projet de règlement. Donc, les règlements, c'est comme des lois, mais qui n'ont pas besoin d'être votées par l'Assemblée nationale, finalement. Par contre, ça peut faire l'objet de consultations, ce qui va être le cas. Parce que quand on regarde tout ça, on veut aller plus vite, c'est bien le fun.
Oui.
Mais en parallèle d'aller plus vite, on coupe des gens dans la fonction publique, on est d'accord?
Exactement.
Donc, là, si tu veux qu'on aille plus vite avec moins de monde, mettons.
Est-ce qu'on va tourner les coins ronds? C'est la grande question.
Puis là, évidemment, le gouvernement va dire, bien sûr que non. On va être plus efficace.
Ouais, on va être plus efficace. On écoute Bernard Drinville à cet effet-là.
Puis le processus, qu'est-ce que tu veux? Celui qu'on change, là, il date de 1972. Ben là, à un moment donné, c'est normal qu'on veuille le moderniser. Puis, moi, je le dis, là, au début du processus, il y a une séance d'information. L'entrepreneur qui s'en va dans les communautés pour répondre aux questions, ça, c'est encadré par le BAP. Le BAP va tenir une deuxième séance d'information plus tard. Puis ça, c'est... s'il n'y a pas en plus des audiences publiques du BAP, fait que le public va être beaucoup impliqué.
Alors, on ne tournera pas les coins ronds, Antonine. Le public va être beaucoup impliqué. Moi, je veux pas qu'on tourne les coins ronds. Puis là, il y en a plusieurs qui pourraient dire, « Ben voyons, Jeff, ça n'a pas d'allure. Il faut accélérer les projets de le kit. » On a juste être meilleur dans nos projets.
Absolument.
S'il y a une instance, le BAP qui existe, justement, c'est parce qu'il y a lieu de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où.
Non, on a des lois environnementales au Québec desquelles on peut être fier. C'est plus dans la façon dont on coordonne le tout. Tu sais, par exemple, toi, tu as un projet, puis là, on te demande des exigences, mais on te demande des exigences qui arrivent à un moment où, dans le processus, ça fait en sorte qu'il faut que tu recules, que tu rembauches du monde. Là, on dit non, là, on te met sur pause, là, il faut que tu mettes du monde dehors. Tu n'arrives pas à planifier ton projet comme il faut. Donc, ça prend une bonne collaboration entre les ministères, entre l'État québécois et les entreprises. Il faut que les entreprises fassent leur bout aussi. Parce que évidemment là, il y en a des cabochons là, aussi.
Ben oui,
là, qui
exactement.
Qui présentent des affaires tout croche, qui ne remplissent pas les exigences. Puis après ça, ils disent, ben là, ils arrivent face au ministère, puis ils disent, moi, c'est pour demain matin. Le ministère, il dit, excuse, buddy, tu n'as pas fait tes devoirs. Puis si tu nous l'avais demandé avant, on te l'aurait dit. T'sais, c'est une coordination de meilleure communication entre les deux. Puis en passant, quand on parle de mieux collaborer entre l'entreprise puis le ministère, il y a des gens qui trouvent que c'est bien terrible, là, ça, là. Ministère collabore avec l'entreprise privée,
Dieu! Mais non, mais ça va juste accélérer les choses. Et l'exemple à Bernard Drinville est très bon. C'est que je vais arriver justement avec mon projet, moi le présenter à la population. La population va dire, hey, ça comme enjeu, merci, bonsoir. On y répond, on passe par le BAP et on y va. Un des bons exemples à ça, c'est le projet 4 bourgeois des frères Trudel. Et également le projet Lo Dorchester des frères Trudel, où on est allé s'asseoir avec la population, on a regardé qu'est-ce qui allait pas, on est revenu avec un nouveau projet. Bon, évidemment, il va toujours avoir une portion de la population qui va être contre,
et voilà.
Mais on vient quand même chercher l'adhésion de la majorité des gens faisant de cette façon-là.
Il va falloir éventuellement mieux définir c'est quoi l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité. C'est pas que tout le monde est d'accord de quelque chose.
Ça n'arrivera jamais, ça.
Ça n'arrivera jamais. Et, tu sais, il y a des projets plus compliqués que d'autres. Un oléoduc, par exemple, qui traverse plein de communautés, c'est un projet d'intérêt national, mais là, ça peut pas juste être le village dans lequel... Tu sais, c'est pas facile, c'est pas si simple que
non,
ça de définir l'acceptabilité.
Mais là, hier,
sociale.
En entrevue avec Paul Larocque dans l'émission Le Bilan, j'ai été surpris parce qu'un troisième lien, ça a l'air compliqué.
Bon, écoutez, là, Paul, vous m'amenez sur un terrain qui est quand même délicat, mais...
Non, c'est
réaliste. On jase. Ouais, on jase.
Ça tombe bien d'être à l'émission d'en jase.
Il y a un projet, effectivement, qui avance bien. Mon collègue Jonathan, le ministre des Transports, Jonathan Julien, va revenir après les fêtes avec un budget cible, puis avec aussi un tracé définitif.
Oh, Alex! Bon.
Alors là, mettons que le projet avance, Et puis, on s'en va éventuellement en appel d'offres, puis on donne le contrat. Bon. Alors, le promoteur, l'entrepreneur, donc, qui ferait le projet, devrait déposer un avis d'intention, dire aux gens de la grande région de Québec-Lévis, Chaudière-Appalaches, voici à quoi ressemblerait le projet. Okay. Il commencera à travailler avec les fonctionnaires, comme je vous l'ai décrit, et puis il y aurait des séances d'information avec les gens des deux côtés du fleuve.
Et
on avancerait okay. comme ça.
C'est bien en théorie ce que Bernard Drainville a proposé, mais à la première question pratique hier de Paul Larocque, on est-tu prêt?
Bien, pour le troisième lien ou pour changer nos processus environnementaux?
Les deux. Le troisième lien, je pense pas, parce que mettons qu'on ferait le projet.
Oui, mais là, c'est pas fin, parce qu'il prend, il dit, OK, on va prendre tes processus environnementaux, puis applique-les sur un projet troisième lien qui n'existe pas, tu sais, puis qu'on sait toujours pas c'est quoi le tracé définitif. Fait que pauvre Bernard, j'avoue que c'est un peu périlleux comme question. C'est des longs processus. Tu sais, par exemple, un projet qui est plus concret en ce moment, c'est celui du pont de l'île d'Orléans.
Oui.
Qui est bien avancé maintenant.
Pour être concret, c'est concret.
C'est concret.
C'est là, puis le trafic aussi.
Mais ça a été très complexe au niveau environnemental, hein, parce que même si le pont existe déjà, bien, on réévalue un projet de zéro quand on a ce genre de projet-là. Et je vous annonce que dans le fleuve, bien, il y a des habitats d'animaux notamment et de poissons, notamment le bar rayé. Bon, peut-être que vous ne vous réveillez pas la nuit en vous inquiétant du bar rayé, mais à chaque fois qu'on fait un projet, ça a des impacts environnementaux. Puis quand il y a une espèce dans le fleuve qui est endommagée ou qui est affectée par un projet, bien, ça a un impact sur tous les écosystèmes. Donc, évidemment, quand tu es au ministère de l'Environnement, tu regardes ça, puis toi, ta responsabilité, c'est ça. Mais des fois, à un moment donné, tu dis là, le pont, il va se construire anyway. On est-tu d'accord qu'on va pas finir par pas faire de pont à
Orléans? On pas le choix.
On cherche des manières de mitiger les dommages qu'on va faire. Quand tu détruis un habitat, par exemple, dans le Saint-Laurent, tu es supposé de réhabiliter ailleurs, d'essayer de compenser, etc. Ça se fait pas en deux minutes, évidemment. Donc, faut pas non plus avoir la pensée magique, mais les non-sens, là, ceux-là qui servent à rien, là. Hey, moi, j'ai un exemple. Je peux pas le donner. Je donnerai pas de nom, là.
OK, mais vas-y.
Mais, tu sais, à un moment donné, un projet, genre, vraiment cool de logements sociaux. Ouais. OK, tu sais, des logements abordables.
Là, on en a-tu besoin, tu penses?
Mais là, il y a un fonctionnaire, à quelque part, qui veut une étude sur l'impact sur les écureuils d'un parc qui est à des kilomètres de là.
Ouais, là,
mais
ça
le
va
terrain,
être correct, là.
Le terrain sur lequel on veut faire des logements, il est contaminé déjà. Mais là... Non, il faut quand même que tu me fasses une étude sur la contamination possible des écureuils due à tes travaux.
Non, alors ça, c'est du niaisage.
Tu sais, là, je veux dire...
Je me demande ce que ça y donne à cette personne-là. Ouais. Il y a clairement quelque chose à aller chercher.
C'est la procédure, c'est la procédure. Tu sais, ça...
Ouais, des gens qui réfléchissent pas et qui font juste regarder le carnet de procédure, là, en effet.
Tu sais, tu veux construire des logements sociaux, c'est un terrain contaminé. Je veux dire, y a-t-il un écureuil qui est heureux d'aller se contaminer sur un... Ah, c'est pas grave, il est déjà là. Fait que ça, on regarde pas ça, mais on va regarder, par exemple, ton projet qui va être rempli davantage. Donc, en tout cas, bref, on souhaite que M. Drainville réussisse son pari sans tourner les coins.
Exactement. Continuons sur Bernard Drainville parce que tant qu'à l'avoir à l'émission Le Bilan, Paul Larocque a repris notre thématique d'émission en disant « M. Drainville, on jase, là. » On jase.
On jase.
Allez-vous vous représenter en 2026?
Vous serez candidat, vous, là, dans, au prochain... Est-ce que c'est déterminé, sûr, 100% sûr?
Ah, c'est déterminé. Moi, là, je suis fier de représenter Lévis. Il se passe des belles choses à Lévis, Paul. C'est pas juste la Lévis, là. On a fait des beaux projets.
OK.
On a fait des beaux projets sur Guillaume Couture, des voies réservées. Mm-hmm. On va élargir la 20 vers l'ouest.
Ça a pris 8 ans.
Une nouvelle école va voir le jour. On commence la construction. Je travaille sur un projet, deux projets en santé.
Une nouvelle école va voir le jour parce qu'il y en a une qui s'est effondrée.
Ouais. Détail.
L'autoroute 20, on va le faire. Oui, c'est censé être fait en 2025. Mais on va le promettre à la prochaine campagne électorale. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est...
Ouf. Hey, le souper!
Hey, boy!
Ben, vois, mettons, là, t'es ministre de la CAQ en ce moment, là.
Ouais.
Tu t'attends à te faire poser la question à chaque fois que tu pars en entrevue, puis tu trouves une réponse.
C'est clair, comme
Denis. Écoutez, je suis en réflexion, mon intention, c'est de me représenter, je veux pas de quoi de même. Le grand soupir, puis est-ce que j'ai compris qu'il a dit c'est déterminé?
C'est déterminé. Parce que Paul Larocque, tu lui as demandé est-ce que c'est déterminé? Il a
donc
dit,
oui.
Ouf! Mais non, c'est déterminé, on sait pas quoi. C'est oui ou non? C'est juste déterminé.
Eh,
Toi qui es une spécialiste des coms, tu aurais conseillé quelque chose d'autre, hein?
Je suis en réflexion. Mon intention, c'est de me représenter.
C'est ça.
C'est tout. Point.
Exactement. Maintenant, la question qui tue, est-ce qu'il est toujours souverainiste?
On jase. Je vous cite. Là. On jase, M. Drainville. Oui. Bon.
On jase.
L'élection arrive, le PQ prend le pouvoir, il y a un référendum. Vous étiez un fervent indépendantiste. Êtes-vous encore?
Ben oui, mais... Les questions hypothétiques, Paul, tu sais très bien qu'on ne répond pas à ça.
Non, ma question n'est pas hypothétique.
Puis il y en a. Regarde, il n'y en aura pas de référendum.
Non, mais êtes-vous indépendantiste?
Il n'y en aura pas de référendum. Il n'y en aura pas de référendum parce que moi, je pense qu'à la fin, les Québécois vont se dire on n'ira pas voter pour un parti qui nous propose un référendum perdant. Ce serait vraiment. Écoute, ça n'a pas de bon sens d'aller voter pour un parti qui nous propose un référendum. Qu'on risque de perdre, de perdre. Hey, moi, là, je suis à Lévis, je travaille pour aller chercher des contrats du fédéral, pas
l'argent du fédéral.
On est allé chercher le Polar Max, le brise-glace polaire, les investissements actuellement, le chantier, ça se modernise. Il y a 3 navires actuellement qui sont en rénovation sur le chantier. Moi, je travaille pour aller chercher des contrats au fédéral, notamment des contrats militaires. Penses-tu que le fédéral va avoir le goût de nous donner des contrats à Lévis si on a à Québec un gouvernement qui veut se séparer du Canada?
Pascal Bernard est achetable.
Mais il est habile. Il est tellement habile dans sa communication en ce moment parce que je me dis, si jamais il sautait de la CAQ et voulait aller au sein, mettons, du Parti québécois, il a quand même pas dit que c'était inadéquat. Il a dit que c'était pas le moment en ce moment parce qu'on va négocier des budgets fédéraux. Au début, je l'écoutais, je me dis, il pourra pas migrer vers un Parti québécois si jamais c'est dans ses lubies d'y retourner, là.
Moi, je t'avoue être en désaccord avec toi. Je vais écouter Antonine, puis après ça, je donnerai mon opinion.
Oui, mais c'est intéressant.
Moi aussi, je suis en désaccord parce que, premièrement, je pense pas que Bernard veut retourner au PQ. Je pense pas que c'est ça l'objectif. Ce qu'il essaie de faire, c'est de faire la gymnastique nécessaire pour pas être en contradiction avec ses idées du passé ou quand il était au Parti québécois. Fait que là, il trouve une espèce d'avenue entre les deux qui dit que c'est pas le moment, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas parce qu'il veut retourner au PQ, c'est juste pour pas avoir l'air d'un imbécile qui a complètement changé son fusil d'épaule.
Un genre de girouette. Mais je disais pas qu'il voulait repartir au Parti québécois. Mais si la CAQ roule puis lui, il décide de sauter du bateau, c'est pas fermer une porte. C'est quand même habile au niveau politique.
La porte est fermée. Là. Mais il a le droit de voter oui après. Là. Mais on s'entend qu'il reviendra pas au bateau amiral.
Moi, c'est de sauter sur l'argent du fédéral fait.
Ça, je trouve ça terrible.
Ça, j'ai trouvé qu'il allait trop loin.
Ben oui.
Là-dedans.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, qu'il va trop loin dans le sens que ça a toujours été le combo.
On peut pas se séparer, on veut l'argent du fédéral. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose d'un peu gênant à dire ça?
T'sais, ça a toujours été le combat des gens souverainistes de dire hey, c'est pas grave, on va récupérer l'argent pour on va mieux la gérer.
Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ils se disent juste je peux pas laisser tomber les projets pour lesquels on a travaillé. Puis c'est vrai qu'il est allé chercher de l'argent fédéral. Je sors de la personnalité de Bernard Drainville. Je sens juste qu'il marche sur des œufs puis que c'est vraiment de pas se faire snapper d'une manière ou d'une autre.
T'as raison qu'il marche sur des œufs. Et c'est étonnant. On dirait qu'il a été pris de court par 2 questions qui me semblent évidentes. Allez-vous vous représenter? Êtes-vous toujours souverainiste?
2 questions de base.
Peux-tu m'expliquer pourquoi je me suis fait péter tympan par un soupir aux deux?
Ben c'est ça, c'est 2 questions de base.
Voyons, c'est de base. Puis je pense qu'il aurait pu répondre directement. Écoutez, moi, je pense pas qu'il peut y avoir un référendum parce que je pense que les Québécois savent que c'est pas le moment en ce moment. On est dans une crise commerciale, l'économie va mal. T'sais, moi, je suis pas là-dessus présentement. Puis un troisième référendum perdant, ce serait terrible. Point. Donc, de là, après ça, à faire des liens entre l'argent du fédéral, puis soupirer, puis oulala, puis... Ben voyons. Puis c'est une question hypothétique. Ben quand t'étais souverainiste, c'était pas mal plus hypothétique, le référendum. Là, on n'en promettait pas. Puis tu disais oui, là.
Ben, on était dans les conditions gagnantes de Pauline. Tant qu'à être dans la souveraineté, Ruba Gazal!
J'entends Paul Saint-Pierre Plamondon parler d'immigration et je vois se bâtir un camp du oui qui exclut. Un camp du oui, mais... renfermé sur lui-même. Si l'autobus du Parti québécois est trop petit pour tout ce monde-là, eh bien, nous, à Québec solidaire, on va louer des trains orange, puis on va le faire notre pays vert, inclusif et rassembleur.
Il y en a un qui a sauté en bas du train orange?
Oui, ça a l'air que c'est pas tout le monde qui a envie d'embarquer dans
ce train-là.
C'est
pas tout le monde qui a envie d'embarquer dans le train orange. Donc, on a un commentaire ici par texto en disant « Bernard Drainville veut faire pitié ». Oui, je pense que Ruba Gazal aussi tentait de faire pitié, mais là, le train orange se vide. Qu'est-ce qui se passe, Antonine? Explique-nous ça.
Bon, tout le monde s'en fout un peu, le Québec solidaire, ces temps-ci. Et c'est normal, étant donné que, évidemment, ça va pas très bien dans les sondages. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils ont eu beaucoup d'attention pour un parti qui était là, à 8 % dans les sondages. Mais il se passe quelque chose quand même d'assez important, je pense, chez Québec solidaire qu'il faut souligner. Il y a eu le départ de Vincent Marissal. Il y a pas mal de monde qui ne se représente pas aussi chez Québec solidaire. Et là, la dernière tuile qui leur est tombée sur la tête, c'est Jimmy Thibodeau. Vous ne le connaissez pas et je ne le connaissais pas non plus, qui a été co-porte-parole du collectif Option nationale de QS. Ça, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques années, Option nationale, parti indépendantiste qui s'était séparé là, du PQ sous le leadership de Jean-Martin Hossan, a fusionné avec Québec solidaire il y a quelques années. Et il y avait une frange ON chez QS. Catherine Dorion et Sol Zanetti en faisaient partie notamment. Et là, Jimmy Thibodeau, qui publie une lettre ouverte ce matin, et qui dit qu'il ne peut plus défendre le souverainisme de Québec solidaire. Il quitte le navire et il invite les indépendantistes à se joindre au PQ. Donc, il déplore que QS attaque constamment le PQ, diabolise le PQ. L'extrait que tu nous as passé juste avant le démontre.
Ben oui.
Quand il y a eu l'élection de l'autre co-porte-parole, Sol Zanetti, cet automne, Ruba Gazal a tenu encore une fois des propos très négatifs envers le PQ. Disant que c'est un
jamais
oui, mais...
en répondant aux questions aussi là, des journalistes.
Et de dépeindre le Parti québécois comme étant un parti intolérant, qui veut faire un pays, mais qui n'est pas pour tout le monde. Tout ça. Le PQ ne se gêne pas non plus pour être à l'attaque envers QS, mais pas autant. Ça ne marche pas dans les deux sens. Oui, le PQ, on sent de l'animosité contre QS, mais passe pas autant de temps à attaquer QS que QS passe de temps à attaquer le PQ. Le PQ attaque plus la CAQ que les libéraux.
PSPP aime ça répondre à QS. Là, mais il laisse Vincent Marissal présentement faire le travail.
Puis, on peut se demander, tu sais, est-ce que c'est gagnant de promettre un référendum dans un premier mandat? Est-ce que c'est gagnant? Bien, là, c'est une autre démonstration que oui, ça porte ses fruits, parce que si les indépendantistes qui sont chez QS et qui se disent, c'est pas à QS que ça va se faire, l'indépendance. Parce qu'il y a une majorité d'électeurs qui votent pour QS qui ne sont même pas souverainistes. Et ce que Jimmy Thibodeau dit, c'est qu'on a deux porte-parole qui sont résolument indépendantistes. Hein? Ruba Gazal et Sol Zanetti, ils en parlent beaucoup d'indépendance, oui. Et on doit leur donner. Mais lui, ce qu'il dit, c'est « Je ne crois pas que même avec deux co-porte-parole, ce parti-là va vraiment travailler vers la souveraineté. Son jeu, c'est d'attaquer le PQ, d'affaiblir le camp du oui, finalement. Donc, invite les gens à se joindre au PQ. Et c'est pas le seul, hein, parce qu'il y a une autre dame qui s'est faite connaître cette année pendant l'élection partielle dans Terrebonne. C'était la candidate de QS, Nadia Poirier, qui avait été laissée complètement elle-même pendant la...
ça, c'était épouvantable. Et là, elle travaille pour Catherine Gentil-Cœur qui a gagné.
Absolument. Donc, elle a joint les rangs du PQ également. Il y a d'autres anciens candidats aussi qui flirtent ouvertement avec le PQ. Je pense à l'ancienne candidate dans Saint-François qui est médecin et dont le nom m'échappe terriblement présentement, mais tu sais de qui je parle.
Yes.
Il y a pas mal de gens qui veulent revenir vers le PQ. C'est sûr que le PQ est premier dans les sondages. Hein. C'est peut-être aussi une partie de l'explication. Mais je pense que cette idée de promettre un référendum dans un premier mandat pour les gens qui votaient pour QS, mais pour qui l'indépendance est importante, peut-être que ça va jouer dans la réflexion d'ici 2026.
Dire que voilà, même pas 4 ans, on pensait que le PQ était mort, que QS allait gagner, mais allait gagner ce combat et là, ça a complètement viré de situation. On termine avec ce qui est pour moi un scandale qu'on pourra continuer à suivre cette semaine, mais c'est les camionneurs Inc., les chauffeurs à rabais, parce que là, il y a un proche de Mark Carney qui était assis à 2 chaises de lui à son assermentation.
Faut pas dire qu'il le connaît pas, là.
Ben non, exactement.
Il y avait 40 personnes dans cette assermentation-là en passant.
C'est ça. Qui travaille justement à faire en sorte que le gouvernement laisse pas mal passer ça, les chauffeurs à rabais.
Exactement. Un donateur libéral fédéral, Tejprit Dulat, qui est porte-parole du Canada Truck Operators Association et qui fait du lobbying activement pour qu'on ne serre pas la vis aux entreprises qui embauchent des chauffeurs à rabais. Je veux juste vous rappeler qu'il y a une augmentation de 35 % d'accidents qui impliquent des camions en ce moment sur nos routes. Même les États-Unis nous demandent de resserrer la vis parce que c'est des vrais dangers publics. C'est des gens qui ne sont pas formés, qui ne respectent pas le code de la route. On sait aussi que Québec avait sa part de responsabilité puisque les contrôleurs routiers ont été neutralisés pendant un bout de temps. C'est en train de se régler, mais il y a une partie de la réponse qui est à Ottawa. C'est à l'Agence du revenu de faire de la surveillance. Et cette association-là, là, dont M. Dulatte est le porte-parole, pousse pour qu'on ne serre pas la vis, qu'on ne donne pas de pénalité, et pousse aussi pour qu'on ne resserre pas la vis sur l'immigration non plus. On veut le plus possible. Ce qu'on veut, là, c'est des étudiants étrangers. Mais c'est drôle, moi, je pensais que les étudiants étrangers venaient ici pour étudier, puis après ça, pratiquer un métier. Ben non, on en veut. Pourquoi? Pour qu'ils conduisent des camions. Je vous annonce que c'est pas tous des gens qui étudient en camionnage. Là,
non, mais ben, ouais, ben oui, mais on les fait étudier, mais on les fait étudier 48 heures, puis on leur donne un camion.
Exactement, puis après ça, go, vas-y, mon grand. Et je veux pas les stigmatiser, ces personnes-là. Mm-hmm. C'est des gens qui essaient de s'en sortir, d'avoir une vie meilleure. Ils se font dire, tiens, tu peux conduire un camion. C'est pas eux personnellement, mais comme pays, on a une responsabilité de s'assurer de mettre les balises nécessaires pour pas que des camionneurs soient des dangers publics. C'est hyper dangereux. Faire un accident avec un camion, là, t'as pas beaucoup de chance.
Oui, là, t'en as parlé au Québec. Moi, je trouve qu'on a pris nos responsabilités. Jonathan Julien fait un excellent travail dans ce dossier-là.
Ça a été
avec
long, mais là, c'est fait.
Oui, sauf que t'es... la défense de Jonathan Julien, il a récupéré un panier pourri de Geneviève Guilbeault.
Ben, c'est ça. Ça a été, le gouvernement l'a échappé. Là, Jonathan Julien c'est est ça. En train de le rattraper.
En Ontario, on a révoqué les permis. Donc, absolument. Au moins, on a fait une action concrète. Maintenant, est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est à suivre. Mais au Canada, c'est très laxiste là, de « Oh, on va donner des amendes, puis on verra. » Mais comme le porte-parole là, du Bloc québécois en matière de transport, Xavier Barsalou-Duval, disait « On donne des amendes, mais ils se repartent une compagnie sur un autre nom. »
Non, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Pas.
Et c'est l'Agence du revenu qui est responsable de serrer la vis. Je veux juste vous rappeler que c'est le bordel total à l'Agence du revenu du Canada. C'est pas vraiment rassurant.
Non.
Et de l'autre côté, ça lobby extrêmement fort. Et ça lobby sans être inscrit au registre de lobbyistes, mm-hmm. en passant. Là, dans l'article du Journal de Montréal, c'est, d'après moi, ils vont se dépêcher à mettre les choses en ordre. Mais ça lobby. Ils ont déjà obtenu que le gouvernement a retiré de son langage de dire « chauffeur à rabais » en passant.
Ah, imagine.
Ils disent plus ça, là.
Donc, comme si ce n'était pas une problématique, on l'a soudainement oublié. Ouais. Je veux pas jouer au complotisme, mais Pierre Poilievre parle souvent des investissements privés de Mark Carney qui dirige ses décisions. Bien là, on a un exemple concret qui nous prouve, malheureusement, que il y a de fortes chances que les amitiés et les investissements privés de Mark Carney ont une influence sur comment il gère le pays.
Et non seulement c'est dangereux, mais en plus, vous perdez de l'argent. Vous et moi, on perd de l'argent parce que c'est une baisse de recettes fiscales, donc d'impôts, de taxes, qui doit revenir dans les coffres de l'État qui ne sont pas là. Mm-hmm. Parce que les chauffeurs à rabais coûtent 20 % moins cher que les chauffeurs salariés. Et il y a pas mal d'affaires qui se fait en dessous de la table. C'est souvent des personnes qui ne sont pas toujours réguliers dans leur permis de travail, etc., qui sont très à risque d'être exploitées aussi. Mm-hmm. Donc, décidément, le gouvernement fédéral devrait s'atteler à ce dossier-là. Je pense que Xavier Barsalou-Duval ne lâchera pas le morceau, mais on dirait toujours à Ottawa, c'est long avant qu'on réussisse là, vraiment là, à créer à faire assez de vagues là, pour que quelque chose bouge.
Non, j'avoue, tu as entièrement raison. Les auditeurs sont d'accord avec nous. Il y en a plusieurs qui disent « Hey boy, on est dans un gros conflit d'intérêts avec cette situation-là. » Donc, c'est pour ça qu'on va continuer à la suivre attentivement. Antonine Iaccarini, tu es en congé demain?
Ben oui, je suis en congé. Ben, ouais, vous allez vous ennuyer. Hein?
On va s'ennuyer au bout de Pascal, on va s'ennuyer. Ça n'aura pas de sens.
Ben oui, c'est sûr.
C'est puis qu'est-ce qu'on va faire. Antonine, qui est là du lundi au jeudi de midi à 12h30 pour le caucus Iaccarini, va être absente demain. On va s'y faire. On se parle jeudi en ondes, puis on se voit vendredi au party de Noël de la communication.
Oui.
Yes, sir! Après cette courte pause, c'est Roger Ferland qui vient s'installer. On parle entre autres de cette poursuite de 2 millions de dollars de la part de la famille du jeune Noran, 15 ans, qui a été abattu par un policier dans la ville de Longueuil. Donc, restez avec nous à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Il y a des choses qui sont assurément appréciées par tout le monde. Puis, tu sais, les petites choses du quotidien, quand on décide d'upgrader ça, hein, d'en mettre un peu plus, de faire des bons choix, d'aller dans un plus haut de gamme un peu, bien, ça fait un changement total dans notre routine. Et c'est le cas du café. Quand on prend le temps, quand on est amateur de café, d'aller acheter à un endroit où ils connaissent ça, un endroit où ils vont vous conseiller, ils vont vous faire apprécier un type de café, un grain, puis vous ne saviez même pas qu'il y en avait un que vous appréciez plus que l'autre, puis que finalement, ben, les experts ont aidé. Les experts sont chez Sobab sur la 3e avenue. C'est une entreprise familiale. Ils travaillent ensemble depuis des années. Ils sont là pour nous. Ils sont dans tous les projets de Boulevard 102.1 et ils ont décidé d'être vos artisans pour vos cadeaux des fêtes. Ça veut dire qu'on a 5 idées cadeaux indispensables, entre autres pour les bonnes Noëls, mais aussi des cadeaux d'hôtesse et ensuite du café de qualité. Tu vas trouver tout ce qu'il faut pour l'amateur de café ou encore pour la personne que tu veux gâter tout simplement puis changer son quotidien. Le café chaud le matin fait un changement assuré dans une routine qui va vite ou dans un trafic qui est de plus en plus imposant à Québec. Chez Sobab, on est là. Les idées cadeaux sont indispensables. Du petit budget au grand budget. Puis en plus, ben, tu vas avoir le droit d'avoir un café réconfortant quand tu vas y aller. Café Sobab, 3e avenue, du côté de cette entreprise familiale exceptionnelle. On salue Hugo. On salue certainement tous ceux qui y travaillent.
Expert Disque Québec, on en jase.
Je préviens, on jase.
OK, oui, on jase et on jase de plein de sujets intéressants. Et le prochain chroniqueur, Pascal Cévé, Caroline, que je l'aime.
Hey.
Un chroniqueur de longue date à Boulevard.
Quand on a besoin d'un expert là-dedans, il y en a un, puis il faut pas chômer, il faut l'appeler.
Oh oui, et je parle de Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ et enseignant en technique policière au Cégep Garneau. Il a fait un podcast, il a réalisé un podcast avec Denis Gravel qui était sur nos ondes hier sur Opération Scorpion. Roger, comment t'as trouvé ton expérience avec Denis, justement, de revenir sur cette opération qui a été tellement médiatisée et surtout très, très, très importante pour la région de Québec.
En fait, j'ai sincèrement beaucoup aimé. Je n'avais jamais donné d'entrevue directe à Denis sur ça. Puis je pense qu'on l'avait vécu chacun dans des positions différentes. Là, t'sais, lui était jeune journaliste ailleurs dans une autre boîte. Puis moi, là, dans ce dossier-là. J'ai beaucoup apprécié ses questions, puis je ne vous cacherai pas que même à la fin, il a réussi à me le présenter d'une façon, je l'ai moins vu venir un peu, mais il m'a mis les yeux dans l'eau. Il m'a vraiment, il a réussi à venir à me chercher intimement, puis ses questions n'étaient pas insipides. C'est que j'ai même hâte de me réécouter, je n'ai pas encore réécouté, mais j'aimerais ça réécouter parce que les amis m'en ont parlé un peu, là, mais j'ai beaucoup apprécié parce que ça a été sincèrement, le dossier d'une vie pour moi, là, t'sais, toute l'équipe qui était là-dedans aussi, évidemment, mais ça brasse la cage. Puis tu ne sors pas de là sans être écorché un peu de ces genres de dossiers-là, mais de leur faire, de leur vivre, je trouve ça agréable.
Moi, ça m'a touché.
Un bon intervieweur, M. Gravel.
Ça m'a touché particulièrement, Roger, parce que c'est des années où j'étais jeune, de vivre ça par les explications d'un parent qui essaie de pas trop te traumatiser, mais t'expliquer ce qui se passe parce que bon, il y a des colères un peu partout en soutien aux enquêtes que vous faites puis aux opérations que vous faites. Mais de t'entendre, toi qui se levais le matin, qui prenais son café tout croche parce que probablement que tu avais mal dormi la nuit en se disant qu'est-ce que demain je vais faire, comment est-ce que je vais réussir à mettre la main sur tel individu ou comment je vais. Puis d'en arriver à. Ça m'a particulièrement touché de me rendre compte. Compte que c'est pas clos, ce dossier-là. Ça ne le sera jamais. Puis il faut quand même que tu réussisses à dire « J'ai tout fait ce que j'ai pu », même si je sais fondamentalement que tu aurais probablement voulu aller plus loin, que tu savais en ton fort intérieur, mais que par la justice, le droit, etc., tu pouvais pas.
Ah, tout à fait. Pascal, t'exprime un point qui est extrêmement difficile au début comme policier. Tu penses que le mot « justice », tu vas tout régler les affaires là-dedans. Puis c'est vraiment pas le cas à un moment donné. J'ai dû développer beaucoup de résilience à plusieurs niveaux là-dedans, d'être capable de se remettre en question, de dire jusqu'où limite organisationnelle, opérationnelle, survie légale qu'on va réussir à faire. Mais tu sais, ça faisait des années que j'entendais parler des histoires avant. Quand j'ai parlé à Denis au début, je me disais, combien de temps ça faisait que j'en entendais parler? Officiellement, ça faisait 2-3 ans que les gangs de rue étaient présents. Mais ça fait des années que tu entends des histoires de gens qui se font abuser, de gens qui font profiter. Et c'est-tu vrai? C'est pas vrai? C'est pour ça que quand c'est à toi et à ton tour qu'on l'offre de te le mettre en avant, OK, parfait, tu as la chance maintenant d'enquêter. Je peux te dire que j'étais aussi préoccupant. J'étais quelqu'un je me trouvais relativement bien organisé. Mais une chance qu'on ait eu une équipe solide. J'ai eu, comme je t'ai dit, un vrai dream team. Mais beaucoup de résilience, il faut que tu apprennes parce que tu as des limites. Puis comme individu, mes enfants, même dans cette séquence-là, ma conjointe d'époque, tout le monde en sort un petit peu écorché parce que tu n'es pas présent mentalement quand tu es en train de penser à tout ça, puis que tu sais que ça te bouleverse, ça te vire un peu à l'envers. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Tu sais, c'est ouf, qu'il y a des bouts. Ça a été rough. Mais ouais. Ça fait partie de l'acceptation. C'est pour ça, des fois, j'ai envie de dire, les trafiquants de drogue et les alcooliques anonymes m'en ont appris beaucoup là-dessus. Change ce que tu peux, accepte ce que tu peux pas, puis elle a sagesse de faire la différence. Je pense que ça, j'ai eu à le dire souvent pendant qu'on faisait des dossiers comme ça, et elle partageait toute l'équipe avec qui j'étais.
Non, en effet, ça a été un dossier tellement important pour la grande région de la capitale, puis on souhaite justement que l'excellent travail que vous avez fait dans Opération Scorpion, Roger, même s'il ne faut pas se fermer les yeux, puis on sait que ça existe encore, la prostitution juvénile, on souhaite que ça ait diminué grandement, ça j'en suis convaincu. Parlant de tragédie, Roger, je t'amène à Longueuil, le 21 septembre dernier, où le petit Noran, 15 ans, était abattu de 2 balles par un policier. La famille décide de poursuivre le service de police de Longueuil pour environ 2 millions de dollars. C'est une tragédie qui nous touche tous, mais est-ce que cette poursuite-là vient un peu trop tôt par rapport au fait qu'on n'a pas encore les résultats de l'enquête du bureau indépendant?
Oui et non. Il faut que les familles affirment assez vite leur intention s'ils veulent aller dans un sens. Il y a quand même des délais, mais je ne pense pas que les délais aient expiré. Mais là, pour diverses raisons, c'est plus stratégique, autrement, ils le font. On s'entend bien, là, c'est un montant très élevé, mais il n'y a jamais un montant d'argent qui va remplacer la perte d'un enfant. Pas. Dans ce contexte-là, là, je n'ai même pas envie de rien défendre. La seule chose, par contre, là, il va s'établir, ça vient tôt, tu le dis, parce que l'enquête du BAI n'est pas encore déposée. On n'a pas encore non plus l'enquête criminelle. Le SPVM a amorcé une enquête sur toute la gang de jeunes qui étaient là-dedans aussi. On sait qu'il y a des enquêtes parallèles. Puis là, voyez-vous, on sait officiellement que le jeune est décédé par la cause d'une action policière, mais ils vont devoir tantôt arriver à établir pour que la poursuite se clore par un déboursé quelconque d'argent. Une responsabilité, oui, un geste causé par un tiers, mais est-ce qu'il y a eu erreur, omission, faute professionnelle? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats juridiques qui vont s'enclencher et ça va prendre des faits objectifs. Non pas émotif, mais pour venir à dire combien ça coûte s'il y a eu erreur. Et des justifications raisonnables encore là. C'est des mots qui ont l'air simples, mais qui vont devoir tantôt être, séparés, séquencés en plusieurs événements pour être capable de voir est-ce que c'était logique que quelqu'un vienne aux mêmes décisions dans de pareilles circonstances.
Les jeunes aussi qui ont été spectateurs de la scène qui était aux côtés du jeune, on en parlait avec Antonine Iacarini en pause avant d'aller te rejoindre, Roger. C'est des choses où on a une réflexion à se poser sur comment on les encadre aussi.
Ah, complètement. Voyez-vous, ça tu tombes dans tout à fait un autre débat, je pense, mais qui est important à mettre en tête. Tu sais, ces jeunes-là, ce groupe-là, avaient quand même une intention dans les minutes qui ont précédé, mais l'intention vient de quelque part avant. Il y a eu un avant cette journée-là. C'est pour ça qu'il y a une grande part de responsabilité qui revient à l'action policière pour la mort, mais il y a aussi plein d'autres questions à se poser sur le milieu social, l'éducation, l'entourage. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont être à regarder. Il y a eu une cause directe, mais il y a eu un avant et un après qu'il faut encore considérer.
Parmi, justement, les questions à se poser, moi, je me dis toujours, est-ce que ces jeunes-là avaient déjà commencé des contacts avec des gangs criminalisés? Et ça m'amène à la bonne nouvelle du jour, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le mois de novembre, on parle de 2025, le SPVQ a procédé à 627 arrestations en matière de crimes organisés. C'est un bilan près de 3 fois plus élevé que l'année précédente. Et grâce à la nomination du nouveau coordonnateur qui se consacre à la traque de fugitifs, on a réussi à mettre la main sur Mathieu Pelletier, un haut gradé des Hells Angels, et Dave Picturmel, la tête dirigeante de la Blood Family Mafia. Roger, est-ce que tu as déjà vu une année aussi performante? Moi, il me semble que le SPVQ vient de battre des records que je ne m'attendais pas. C'est tout un travail qui a été fait par notre corps policier.
Tout un travail, sincèrement. Non, je n'ai pas en tête tous les chiffres bilans, mais je peux te garantir que c'est énorme, puis je ne voudrais pas que ça revienne à toutes les années. Tu l'as dit dans commencer. Les deux têtes ont été arrêtées. Ça, c'est aussi, c'est majeur. C'est ces deux belligérants-là là, qui ont foutu à marde au complet à se monter des équipes un contre l'autre, puis après ça, à faire une guerre en pleine rue. Ce qui m'impressionne, juste en 10 mois, hein, c'est plus que 2 arrestations armées par jour.
Wow.
C'est beaucoup, ça, là. C'est beaucoup. Ça, c'est pour ça que je me dis, il ne faut pas que ça arrive à tous les jours. Mais tu vois, Québec, en ce moment, le SPVQ a priorisé une couple d'affaires que je trouve vraiment le fun. Pour la sécurité du public, dès qu'il y a une question d'une arme à feu, je te dis qu'il priorise numéro 1. Et ça devient on va mettre opérationnellement ce qu'il faut pour avoir une intervention immédiate. Alors, ils ont même changé dans les écoles un peu la façon de faire. zéro tolérance. Avant, les policiers qui étaient juste là à l'école pour être un peu des conférenciers, des préventionnistes, bien, s'ils ne sont pas interventionnistes, je pense que ce n'est plus leur place. Ça, c'est déjà une première affaire.
Ah ouais, hein?
Ça, c'est super bon. Oui.
Fait que vraiment d'être, mettons, dans les corridors, à jaser, à récolter de l'information versus être là puis qu'on les approche aux besoins.
Ben oui, c'est en plein ça. Parce que, tu sais, Pascal, faut arrêter de penser que le jeune en vient tout de suite à être armé. Mm-hmm. Il va commencer par taxer un confrère d'un corridor. Il va commencer par écœurer quelqu'un. Si tu as quelqu'un à qui tu peux parler tout de suite, tu vas pouvoir intervenir. Fait que le taxage, avant d'en venir à de l'extorsion avec des feux criminels comme on a à Montréal en ce moment, qui extorquent des commerces légaux, ben les jeunes ont commencé à quelque part à dire « Hey, c'est le fun, c'est facile, j'ai du cash dans mes poches le lendemain matin. » Ben vois-tu, ça, c'est déjà bon. Mais la présence des armes à feu, ça devient un autre phénomène. C'est pour ça que Québec a mis en place PrésAP. Mais ils ont non seulement mis en place prévention, mais répression. Avec deux par jour, là, je veux dire, c'est beaucoup. Quand tu fais la moyenne, je sais qu'il y a des journées qui en a eu 8-10 parce que c'était une opération policière. Mais moi, mes yeux, chapeau. Puis garde, je pense qu'il faut qu'on félicite. Puis il faut qu'on encadre bien aussi leur travail. Tu sais, il y a une direction en ce moment qui prend des décisions. À ce temps, maintenant, montrons-le qu'on les apprécie vraiment. Je ne veux pas faire de combat syndical, mais payons-les comme du monde. Parce qu'ils méritent ce qu'ils font là comme travail. Ils font quelque chose de différent d'autres. Je pense que ça a un prix, ça aussi, dans la qualité de travail qu'on leur demande.
Moi, je trouve ça fascinant de voir où on est rendu aussi en 2025. Pas parce que ben, je trouve que c'est trop intense qu'on est en train de faire avec les jeunes ou encore les interventions, etc. Mais il y a clairement un moment où on a manqué. Je ne peux pas croire, Roger, pour que ça prenne autant d'interventions, autant d'arrestations juste sur le territoire de Québec à 600 pour ce qui en est des groupes organisés, du crime. T'sais, pour moi, ça ne peut pas avoir explosé comme ça. Est-ce qu'on a manqué à un moment, soit de finances, d'agents ou d'informations?
Oui, c'est clair là-dessus. C'est qu'en fait, pendant une certaine période, quand ça va bien, là, on a l'impression, dans la police puis ailleurs, on graisse la roue qui crie. Mm. Là, ça ne criait pas. On avait l'impression qu'on était correct. Alors, on surfait sur ça. Tu sais, M. Labeaume n'avait pas tort de dire que pendant des années, il n'y avait pas de meurtre à Québec. C'est vrai qu'il n'y avait pas de meurtre. Mais je peux te dire qu'il y avait foule d'actions qui se faisaient sur le terrain de prévention. Au fil du temps, comme ça ne rapporte pas d'argent, faire ta prévention, bien, tu la coupes et tu l'élimines. Alors, on a arrêté de s'occuper d'un paquet de petits crimes. Et on a fait des décisions, à mes yeux, stratégiques, qui n'étaient pas mauvaises à la base, de dire on envoie nos policiers plainte sur plainte, appel sur appel. Mais là, tu n'as plus de temps de prévention. C'est quand la dernière fois que vous avez vu des jeunes se promener, des policiers patrouiller puis aller interpeller des jeunes qui jouent au hockey dans la rue? Ils font une infraction à jouer dans la rue au hockey. Mais d'aller leur parler, les gars, quand les chars passent, voulez-vous vous tasser, parler aux jeunes positivement de ça. Pareil avec le basketball. C'est interdit de mettre un panier dans la rue, là. C'est une infraction. Mais attends un peu, si tu veux pas ça, tu vas faire quoi avec tes jeunes? Laisse-le faire de quoi? Fait que c'est pour ça que tout ce volet, au fil des années, on a occupé notre patrouille, puis tu vois, le chef de police l'a même dit. On était en budget, il essaie de faire du rattrapage, mais le pourcentage de budget qu'on met pour l'efficacité qui était là était moindre que toutes les autres villes de la province, tu sais. Là, il veut augmenter de 7 % son budget. C'est normal parce qu'il faut que tu arrêtes à un moment donné de penser que tu vas faire mieux avec moins. Là, on l'a atteint, cet objectif-là. Puis j'ai souvent dit à des patrons, moi, Pascal, dans mes dernières années de police, et j'étais tanné de me battre pour des budgets, là, on a coupé dans le gras, on a coupé dans le muscle, là, on commence à atteindre l'os. Arrêtez d'atteindre la structure de fond. Parce que quand la motivation de tes policiers vont commencer à décrocher puis faire du désengagement, tu vas avoir de la misère à les raccrocher. Québec, on a encore solidement des Gaulois et des Gauloises qui font encore leur travail. Bien, baquons-les, appuyons-les, mais il y a une limite, là, tu sais. On a coupé à pleine place. Là, je pense qu'il faut qu'on réinvestisse aux endroits où on veut que ça fonctionne. Puis j'ai envie de vous dire, l'équilibre entre prévention et répression, moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. Quand ils sont petits, ils sont dressables comme un arbre que tu tutorises. 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans. Mais là, commence à penser 15, 16, ils font des choix de vie. Puis ils se trouvent drôles, ces médias sociaux, de faire leurs actions. Je pense que là, il faut investir aux bonnes places.
J'adore ton image de l'arbre, Roger Ferland. On parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ et enseignant technique policière au Cégep Garneau. Roger, je termine notre entretien là-dessus. Justement, tu parles de réinvestissement. On veut ajouter 101 policiers. C'était 50 en 2025, 51 en 2026. Mais parallèlement, il y a 80 policiers qui vont prendre leur retraite au SPVQ. Est-ce qu'on a assez de jeunes qui poussent pour venir justement combler ces 181 postes-là?
Bien, et en tout cas, on en fabrique assez. L'École nationale en fabrique aussi en ce moment. Je prends le terme fabriquer, là. Il a augmenté. On est au-delà de 1000 par année. On risquait d'en manquer ces derniers mois, je te dirais. Là, en ce moment, oui, je vois que le recrutement du SPVQ est extrêmement proactif. La Sûreté du Québec, pareil, Lévis, là, tu sais, ça, on s'arrange pour ne pas en manquer. Mais à date, il y a eu beaucoup de départs parce que les gens sont arrivés à la retraite. Puis je ne suis pas sûr que le nombre réel sur le terrain, là, encore là, je ne suis pas là faire un débat syndical, mais je ne suis pas sûr qu'on a vraiment 100 de plus qu'on avait l'année passée.
Oui, parce que là, ça part, ça arrive, ben il y a des arrêts de maladie, il y a des congés de paternité, maternité, si on met tout ça ensemble.
Ben oui, c'est en plein ça, tu sais, puis tout ça. Mais il y en a. Oui, on travaille fort, fort pour que notre relève soit bonne et efficace pour le faire. Il y en a des jeunes, mais je pense qu'il faut qu'ils trouvent toutes sortes de moyens. Regardez, ils l'ont fait, là. Ils embauchent des gens avec l'attestation d'études collégiales. Il ne faudrait pas que les gens l'oublient, là. Des gens qui ont déjà une formation de cégep universitaire, des bons sportifs, ça fait des bonnes polices à un moment donné, ou des gens qui ont d'autres expériences.
Ça veut dire que moi, si je perds ma job à Radio Roger Ferland, je suis en forme, j'ai un bac, je peux aller faire une attestation puis je deviens policier.
Tu pourrais, oui, c'est un cours de 10 mois. J'aimerais peut-être mieux Pascal, j'ai rien contre elle, mais elle sait qu'elle monte le Kilimanjaro. Je sais que tu montes juste les escaliers, là. Mais
mais il fait des marathons, par exemple.
Qu'est-ce qui se passe avec moi? Roger Ferland? C'est vrai que Pascal monte le Kilimanjaro. Elle va avoir le souffle nécessaire pour courir après les truands.
Non, c'est ça. Mais c'est
toujours Pascal l'a préféré. Toujours.
Non, une des partners avec qui j'ai travaillé n'avait pas une shape d'un ours, mais elle faisait la job.
C'est ce qu'on va faire, Roger. Je suis à mon père, notre job, moi, Pascal. On va y travailler sa patrouille ensemble.
On va y aller à deux, puis on va pas appeler ça on en jase, on va appeler ça on en arrête.
C'est ça.
En tout cas, vous auriez des solides skills, comme j'appelle avec les jeunes, de communication sociale, ben oui. Capable de parler. Et après, par contre, il faut arrêter de penser des polices, on ne veut pas des travailleurs sociaux. On veut quelqu'un qui est capable d'intervenir après ça.
Exact.
Pour ça, même de faire d'un gant de velours. Mais d'après moi, vous avez les films pour faire
ça. OK, parfait. C'est bon, ça. Si je pense à comment je gère mes enfants, des fois, j'ai de la misère avec la répression. Faudrait que je m'améliore.
J'ai eu de la misère avec les miens. Fait que, regarde, on parlera pas, mais je pense que j'espère être un meilleur grand-père que je vais être un meilleur papa.
Oh, Roger Ferland, c'est toujours un bonheur de te parler. Si on s'en parle pas, je te souhaite des joyeuses fêtes. Puis un beau voyage avec ta conjointe. Une belle. T'as parlé justement d'entrée de jeu avec Opération Scorpion, que c'était pas toujours facile à la maison. Ta conjointe en a pris beaucoup. Donc, tu fais bien de la gâter avec une belle croisière.
Merci beaucoup. Vous êtes bien fin, puis c'est drôle. J'ai fait une autre croisière il y a 20 ans.
Hein?
Et c'était à ce moment-là. Là. J'avais de l'argent dans mon portefeuille, mais j'avais pas été présent. Là, je pense que je veux rétablir les faits, mais là, avec ma nouvelle conjointe actuelle.
T'es un charmeur, mon Roger. Salut!
Passez des belles fêtes.
Salut, Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, enseignant technique policière au cégep Garneau.
Mais l'équilibre mental, il en parle, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Moi, je trouve ça très important, ce qu'il a dit aussi, parce que c'est prenant, c'est des jobs prenants. Il faut avoir quand même de la reconnaissance envers nos forces de l'ordre.
Non, vraiment, Isabelle qui mentionne, j'ai une collègue qui a vendu sa maison, elle a décidé de prendre 12 mois sans solde, elle ne sera pas remplacée non plus comme tes exemples. Donc, on parle de policière, justement, compte tenu qu'elle est censée revenir, elle ne sera pas nécessairement remplacée. Pascal, c'était à la une du site web de Radio-Canada. C'est le pont de Québec qui en arrache. Bon, on le savait, mais là, c'est le tablier, Pascal, qu'on finit pas par remplacer. Il pourrait devenir passé, je vais le dire comme ça, passé date, là, comme un bon vieux yogourt. Et en plus, quand on avait décidé de faire des études, bien, figure-toi donc que les ingénieurs au Québec avaient prévu une structure 30 % trop lourde. Donc, on n'aurait pas pu l'installer de toute façon. Alors, pour en parler avec nous, on fait appel à un ingénieur, un spécialiste en la matière. C'est M. Mario Fafard, ingénieur à la retraite, qui connaît très bien le dossier du pont de Québec. M. Fafard, comment allez-vous?
Ça va bien. Merci, M. Fortin. Ça va très bien.
Ah, merci à vous d'être disponible pour nous. M. Fafard, est-ce qu'on est à risque avec le pont de Québec de tomber avec un pont qui ne sera plus capable d'avoir ces 30 000 passages-là de voitures à chaque jour d'ici quelques années?
On n'est pas à risque. Je vous rassure, il n'y a aucun danger parce que le ministère des Transports donne toujours des contrats pour réparer les défauts qu'il découvre à chaque inspection qui est faite par des experts dans le domaine. Donc, on inspecte le pont, on détecte les éléments qui sont critiques et par la suite, mais on fait des plans et devis pour remplacer ou renforcer les éléments qui sont faibles. Donc, aucun danger pour la population.
Est-ce qu'il va falloir quand même s'attaquer au tablier rapidement? Parce que je regarde le pont qui est juste à côté, le pont Pierre-Laporte, et on prévoit remplacer le tablier en 2037. Donc, normalement, il ne faudrait pas les faire les deux en même temps. Est-ce qu'on est justement en mesure d'être assez rapide avec le pont de Québec?
Écoutez, plus le temps avance, plus ça coûte cher en bon québécois de patcher le pont pour qu'il puisse résister aux charges actuelles. Donc, le pont continue à se dégrader et il faut intervenir, puis plus on attend, plus ça va coûter cher. Donc, à mon esprit, à moi, on est en retard dans le remplacement du tablier du pont de Québec. On dépense de l'argent pour rien, dans le sens que si on ajoute de l'acier, des boulons, on repeinture, mais quand on va refaire le tablier, tout ce qu'on a fait comme renforcement, comme nouvelle peinture, on va le jeter aux poubelles parce qu'il faudra remplacer le tablier. Mmh. Donc, c'est une question de sous également. Hein? On dépense de l'argent pour rien tant aussi longtemps qu'il ne sera pas remplacé. Donc, pour moi, est-ce que ça va rentrer en conflit avec la réparation du pont de Québec? J'ai pas assez de connaissances, je connais pas assez de dossiers pour dire que ça peut poser problème. Mais c'est certain qu'il faut agir maintenant pour le pont de Québec. Ça devait être une priorité du gouvernement du Québec. Écoutez, Madame la mairesse de Longueuil le dit, on doit investir pour la préservation de nos acquis. Le pont de Québec est un acquis, donc il faut investir pour le préserver, bien plus que pour dépenser pour de nouvelles infrastructures.
Comment est-ce qu'on explique le laxisme gouvernemental dans ce cas-ci, quand on parle d'infrastructures comme ça en transport, puis qu'on essaie de rassurer à chaque fois la population que c'est pas nécessairement critique?
C'est pas critique. Il n'y a pas de danger pour la population. La problématique du pont de Québec, c'est qu'on a amené un scénario que je ne comprends pas, qui est de remplacer l'établier actuel, où il y a une certaine épaisseur de béton, mais on remplace ça par plus d'acier, plus de béton. Donc, trop lourd. Et je ne comprends pas que les ingénieurs qui ont fait la conception, ça a été fait dans le privé, aient proposé une telle solution, sachant qu'il y avait des limites de capacité du pont qui appartient maintenant au gouvernement du Canada, au Jacques-Cartier-Champlain incorporé. Donc, je ne comprends pas qu'on ait proposé une solution qu'on savait qu'elle n'allait pas être viable parce qu'elle allait être trop lourde. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, il faut retourner à la planche à dessin et amener une solution maintenant qui va satisfaire le gouvernement du Canada pour dire maintenant on a une charge supplémentaire qui est raisonnable, mais qui ne dépasse pas la capacité du pont de Québec.
Et vous,
pour faire ça, mais, oui.
Oui, bien, c'est ça, j'allais vous poser la question. Vous qui êtes ingénieur, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour régler la situation à long terme?
Il faut retourner à planche à dessin et trouver des solutions innovantes, autres que de l'acier et du béton. Il existe des solutions. Ça peut être un platelage qui est fait en acier, carrément en acier orthotrope, qu'on appelle. Ça peut être un platelage en aluminium. Il faut réfléchir à une solution qui est plus légère, mais il faut y aller maintenant. Il faut travailler là-dessus maintenant. Parce que imaginez, si on ne travaille pas là-dessus maintenant, on va faire des plans et devis. C'est au minimum 2 à 3 ans. Donc, on est encore à 2 à 3 ans à, en guillemets, partir le pont de Québec pour que résiste aux charges actuelles. Donc, il faut agir rapidement. Et c'est ça qu'on ne sait pas du gouvernement actuel. Et on en est où avec les plans de vie futurs pour remplacer le tablier? On ne sait pas.
On vous écoute, M. Fafard. Vous dites qu'il faut faire ça rapidement. Ben, on sait très bien que ce ne sera pas fait rapidement parce que nous, on pense que oui, vous aussi. Mais après ça, ce qui est entre les mains du gouvernement, c'est tout autre chose. Les risques que ça ne se fasse pas rapidement, c'est que ça nous coûte cher parce qu'à chaque fois qu'on va avoir avancé un petit quelque chose, ça va être désuet au moment de rechanger d'autres choses.
Oui. Oui, actuellement, j'ai regardé la dernière évaluation qui a été faite du Pont de Québec. Là. C'est évalué puis c'est public, hein, par rapport à l'évaluation. Et on parle de probablement de 2, 3, 4 millions qu'il faut investir dans ce qui vient pour être capable de maintenir la structure en place. Il y a une autre inspection de prévue. L'inspection, ça fait 2 ans. À chaque 2 ans, on sait qu'il y a des réparations à faire. Puis parfois, c'est 2, 3 millions. Parfois, c'est 14 ou 15 millions. Donc, plus on avance dans le temps, c'est la rouille, hein. Plus on avance dans le temps, plus la dégradation s'accélère. Donc, plus on devra investir d'argent pour le patcher, d'argent, encore une fois, qui est inutile à investir parce qu'on va tout enlever ça à un moment donné, plus on avance dans le temps, plus ça va coûter cher en réparation, plus on gaspille de l'argent.
Puis, ultimement, la solution coûtait combien, là, cette fameuse solution-là, trop lourde, le savez-vous?
Non, j'ai pas vu de prix circuler. J'ai aucune idée, mais ça doit être quelques centaines de millions, j'imagine. Mm-hmm. Mais j'ai pas vu. C'est pas évident à réparer. Hein. Pensez-y, on doit fermer le pont, remplacer des éléments, rouvrir le pont pour mettre la circulation, permettre la circulation dans le jour. Donc, tout ce scénario-là qui doit être mis en place, ça a quand même un coût également. Hein. Parce qu'on ne va pas fermer le pont pendant un an, là.
Non.
Hein? On doit continuer à circuler dessus. Donc, c'est quand même une logistique qui n'est pas évidente. Puis ça augmente les coûts, forcément.
Mm-hmm. En effet, puis vous parliez de 2 à 3 ans pour les pleins de vie. Faire les réparations, ça peut prendre quoi? Encore un délai également de 2 à 3 ans, compte tenu qu'on doit fermer et ouvrir?
Je ne suis pas un expert du tout pour être capable de le dire, mais c'est sûrement au-delà d'une année.
Au-delà d'une année, donc c'est ça. Donc c'est pour ça que là, l'échéancier s'en vient rapidement sur 2037, Pascal, faudrait s'y mettre. Est-ce que, et je termine là-dessus, M. Fafard, ingénieur, merci beaucoup d'être présent avec nous. Pour vous, dans ce que vous savez, est-ce que le gouvernement travaille là-dessus ou préfère travailler sur son potentiel projet de troisième lien?
J'ai aucune idée, je ne peux pas vous le dire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent sur le troisième lien actuellement. Le pont de Québec, la conception ou la reconception pour le remplacer le tablier a été donnée dans des compagnies privées. Ça a été fait par des bureaux de génie conseil. Mais ça retourne toujours au gouvernement par la suite. Il y a des fonctionnaires ou des experts en structure qui doivent reprendre ça et valider le tout. Donc, je ne suis pas capable de répondre clairement à votre question.
Monsieur Fafard, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. C'était Mario Fafard, ingénieur à la retraite, ancien professeur à l'Université Laval, donc qui nous parlait de la situation du pont de Québec. Une situation qui est loin d'être rose. On investit dans le vide, finalement, Pascal?
Bien, c'est ce qu'on se rend compte. Qu'après ça, c'est bien correct de patcher quand c'est le temps, mais quand c'est patché et repatché et repatché pour finalement perdre ce qu'on a investi quelques années après... parce que ça a été mal réfléchi, mal évalué, puis il y a eu du laxisme dans le fait de protéger nos infrastructures. Je veux dire, est-ce que la question se pose encore? Le nombre de viaducs qu'on a perdus, qui a causé des morts aussi au Québec, on est-tu capable d'évaluer la longévité d'une infrastructure comme elle se doit? On est-tu capable de l'entretenir? On est-tu capable d'établir des coûts comme pour présenter le fait que l'entretien coûte bien moins cher que le patchage?
Et comment faire pour garder nos infrastructures à jour? Ça va être le sujet de Gabriel Giguère qui va venir nous parler jeudi, parce que 40 % de nos infrastructures publiques, Pascal, ont la note de D, E ou F.
Mais attends, le gouvernement va sûrement dire que c'est pas les bonnes notes, un peu comme dans les infrastructures en éducation, tu te rappelles. Ouais, un D, c'est pas si mal.
Ouais,
parfait, ce bulletin, maintenant, vous en pensez quoi? Si on vous
ouais,
en donne un?
C'est ça. Moi, si j'arrivais avec un D à la maison, mon père et ma mère n'étaient pas contents.
À partir de C, souvent, une situation d'échec. Je comprends que c'est E, mais C, c'est pas fort.
C'est ça, exactement. Après la pause, on va parler avec Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal. On va revenir sur le fait que les jeunes de 18 à 34 ans, 56 % des 18-34 ans font pas confiance aux médias traditionnels. Pourquoi? Le chroniqueur de la presse, François Cardinal, a émis quelques hypothèses. Rémi Villemur veut nous en parler. Et le mot « masculinisme », Pascal, a été consulté 8 fois plus qu'en 2024. Comment ça? Puis pourquoi ce mot-là est pris en otage de façon négative? C'est ce qu'on va parler avec Rémi Villemur.
Ça va être intéressant, mais est-ce qu'on est vraiment surpris? Moi, je pense qu'il y a bien des gens qu'au-delà d'avoir intérêt envers le masculinisme, ont un questionnement.
Ben
ça
oui.
Comporte quoi? Est-ce que c'est que péjoratif? Est-ce que je pense que le fait de se renseigner, c'est bon usage?
Tu as entièrement raison, Pascal CV. On fait une courte pause et Rémi Villemur est avec nous. Retour de celle-ci à l'émission Nageurs sur Boulevard 101. C'est complètement fou parce que depuis le début de la semaine, on est dans cette promotion extraordinaire chez Matériaux Audet Timbermark, une entreprise familiale québécoise qui vous accompagne dans vos projets de construction depuis 1946. Et la promotion, c'est à l'achat de l'ensemble de souffleurs portatifs DeWalt. Obtenez un item gratuit parmi les 4 suivants. La ponceuse, l'aspirateur, la scie circulaire ou l'outil oscillant. T'es un jeune bricoleur du dimanche. Ta blonde te dit « Hey chérie, les maisons, ça coûte trop cher, on s'en achète une, mais quand on va faire plein de réno dedans? » Ouais, on dirait que c'est moi, ça, Pascal, c'est vrai. On dirait que ça ressemble à ma vie. Ben là, t'as besoin des meilleurs équipements et je te le dis, chez Matériaux de Timbermark, tu vas les trouver, surtout avec cette promotion-là. DeWalt, le souffleur DeWalt, parfait pour venir à bout des feuilles, de la poussière et même de la petite neige poudreuse. J'en ai un, moi. Je vais te dire une affaire. Les feuilles à l'automne, oubliez ça. Mes 7-8 arbres dans ma cour, terminé. C'est moi qui gagne le combat. Profitez de l'offre du 8 au 14 décembre dans un de nos 2 magasins, soit à Québec ou à Saint-Marc-des-Carrières ou au matériauxaudet.ca.
C'est Noël.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Oh. Émission On en jase sur les ondes du 102.1. Il est présentement 13h17. Ça va être l'heure d'aller rejoindre notre chroniqueur Rémi Villemur. Mais avant, Pascal, rappelle-nous ce décès d'une grande de la culture québécoise, c'est-à-dire Béatrice Picard.
Oui, je pense qu'il faut le nommer. Là. On l'a fait en début d'émission, mais la comédienne Béatrice Picard qui est décédée à 96 ans. C'est une femme qui, dans la dernière année, au niveau de la santé, avait eu quelques enjeux et pensait se rendre à ses 97 ans cependant. Puis elle a marqué toute la communauté québécoise. Alors, tout le monde en parle aujourd'hui à la machine à café et autres. On se rappelle son parcours par aussi le fameux passage de sa grande voix, son grand jeu de Marge Simpson dans Les Simpsons. Dans Les Pierres à feu aussi, on l'a entendu dans les années 60. Sinon, elle a marqué la télévision par Le petit monde du père Gédéon, Survenant, Rue de Lens, Quelle famille, Saint-Forien, plus près de notre génération, Un gars et une fille, Virginie, Une été neuf, Les jeunes loups et District 31. Donc, beaucoup de la communauté culturelle sont en deuil aujourd'hui. C'est un grand phare de tout ce qu'on a créé au Québec qui s'est éteint malheureusement.
Clairement. Alors, nos sympathies à la communauté culturelle, nos sympathies également à la famille de Béatrice Picard. Moi, évidemment, Béatrice Picard, ça sonne Marge Simpson. Je suis tellement un grand fan de l'émission Les Simpsons. On s'en va rejoindre à Montréal au 99.5. Excellent animateur du lundi au jeudi de 18h à 19h et également les samedis matins de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous deux.
Ça va bien. Rémi, 56% des jeunes de 18 à 34 ans n'ont pas confiance en nos médias traditionnels. Et là, le chroniqueur François Cardinal de La Presse nomme plusieurs enjeux. Il dit « Les jeunes n'ont jamais vraiment connu un monde où les grands médias occupaient une place centrale. Les jeunes ont la méfiance par défaut avec l'idée même qu'un média puisse être crédible et ils rejettent que le journaliste comme tel, c'est-à-dire l'idée que l'autorité journalistique serait automatique. Qu'est-ce que tu penses de ces hypothèses-là de M. Cardinal?
Bien, je préciserais qu'il est, en plus d'être chroniqueur, c'est quand même l'éditeur adjoint du journal. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il se lance dans cet exercice-là, qui est un exercice nécessaire, qui vise à comprendre la méfiance des plus jeunes, bien, on espérerait que cette personne-là aille jusqu'au bout de la réflexion parce que qu'un journaliste s'intéresse à ça, c'est bien, mais que le boss d'un journal et de l'information d'un journal s'intéresse à ça, c'est encore plus intéressant le point de vue de cette personne-là.
Oui, parce que s'il veut attirer des lecteurs, ben, il n'a pas le choix de se poser des questions puis de trouver les bonnes réponses.
Oui, puis ce n'est pas la première fois qu'il s'intéresse à ce sujet-là. Il s'était exprimé par le passé sur la montée en popularité des influenceurs de l'information, notamment lorsque la journaliste Alexandre Drolet était devenue influenceuse, s'était lancée avait lancé sa chaîne « Elle explique ». Les explications qu'il donne, tu les as bien résumées, elles ne sont pas suffisantes. Hein? C'est qu'il en manque. Le problème, il est juste là. Il se trompe, c'est qu'il manque des explications. Avant d'y venir, juste préciser une chose, la génération Z, celle qui, à 56%, fait de moins en moins confiance aux médias traditionnels, c'est les gens de 18 à 34 ans. Donc, moi, j'ai 31 ans. Et contrairement à ce que François Cardinal avance, j'ai vécu à une époque où s'il y avait juste les journaux et la radio et la télévision qui nous offraient l'information. Moi, je me rappelle d'un monde où, pour savoir si le Canadien avait gagné, tu n'allais pas sur Internet, tu allais chercher le journal devant la maison, puis tu mettais un pied dehors pendant qu'il faisait fret, puis tu tirais le journal, puis tu regardais, puis c'était marqué 3-1 pour les Bruins, puis tu étais comme « Ah, quand je me suis couché, c'était 1-0 Canadien ». C'est pas tout à fait vrai. Non, mais c'est pas tout à fait vrai.
Non, en effet.
Que les jeunes ont toujours grandi avec une panoplie d'outils à leur disposition. La deuxième affaire, l'idée de la méfiance par défaut, ça j'aime bien. C'est vrai qu'on est méfiant par défaut, on fait de moins en moins confiance aux individus autour de nous. La vérité, c'est quelque chose qui existe plus tant que ça. À l'université, en sciences sociales, la vérité, là, je vous dirais, elle passe un mauvais quart d'heure. Là. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Là, c'est compliqué de s'entendre là-dessus, donc ça va quand même loin. L'explication qui manque, et je veux bien accepter. Je veux bien en convenir que c'est difficile pour un éditeur adjoint d'un grand journal de le reconnaître, mais elle existe quand même, cette explication-là, et pour moi, elle est à la source du problème, c'est que les médias traditionnels, comme les humains, ont commis, par le passé, des erreurs. Ils se sont trompés. Ils ont manqué leur coup. C'est ça qui est arrivé une couple de fois.
À quel endroit?
Ben, par exemple, tout récemment, le montage trafiqué du discours de Donald Trump, le jour de l'assaut du Capitole.
Excellent exemple.
Par la BBC, là, pas par un média obscur d'extrême-ci, d'extrême-ça. Là. La BBC, c'est Radio-Canada en Grande-Bretagne. Donc, on a trafiqué un discours. Par la suite, les gens qui étaient en charge ont démissionné. mais ça engendre une méfiance. Moi, j'ai 31 ans, puis c'est rendu que quand je lis un article de la BBC, je ne dis pas que j'y crois pas, mais je suis méfiant. La méfiance, ça veut juste dire je suis sur mes gardes, je suis vigilant. Je n'accepte pas tout ce qu'on me présente comme une vérité et un fait. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que je peux vous donner, je regrette, c'est encore de la politique américaine, mais c'est la santé cognitive de Joe Biden. Pendant des années, on nous a dit, il a toujours été de même. Il a toujours un temps chargé dans ses mots. C'est un ancien bègue. Non, sur cette scène, oui, sur cette photo-là, on dirait qu'il regarde ailleurs, mais c'est parce qu'il regarde. Et là, à un moment donné, il y a eu le débat avec Donald Trump et il s'est effondré complètement devant des dizaines de millions de personnes.
C'était pathétique.
Les médias traditionnels qui avaient nié un peu la santé cognitive, l'état de la santé cognitive de Biden, ont été obligés de reconnaître que c'était lamentable. Oui. Et ils l'ont reconnu en retard. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'exemples. Puis je pourrais vous parler de tous les débats entourant l'immigration de masse. Pendant des années, on disait que ça n'existe pas vraiment de l'immigration de masse, ça n'a pas vraiment d'impact sur le logement, ses services sociaux, sur l'anglicisation de Montréal. Puis aujourd'hui, tous les partis politiques s'entendent à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a des inconvénients. Donc, pendant des années, les journalistes n'étaient pas consensuellement là à dire « ben oui, c'est sûr que si vous faites rentrer des centaines de milliers de personnes d'un même coup, ben il y a un impact. »
Mais je t'écoute, Rémi, là, puis la problématique, c'est que maintenant, les journalistes, et là, je ne parle pas des chroniqueurs, je parle des journalistes, ont nécessairement un billet quand ils traitent un sujet. Là. Tu parles de l'immigration, là. Si moi, je suis pro-immigration, ben, je vais avoir tendance à montrer un petit peu plus le côté que, ben non, il n'y en a pas de problème, il n'y aura pas de crise du logement et tout ça.
Ben, en fait, tu poses la question nécessaire du journalisme et de la chronique. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup des gens dire il y a trop de chroniqueurs au Québec, il n'y a pas assez de journalistes. Et moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je dis, ben, les chroniqueurs, au moins, ils te le disent qu'ils font de la chronique. OK? Si les journalistes reconnaissaient d'emblée qu'ils ont une subjectivité parce qu'ils ont un passé, ils ont des expériences de vie, ils ont des idées, ils votent, hein, les journalistes, le saviez-vous qui votaient, hein, qui votent pour des partis politiques, ils ont des idées, ces gens-là. Donc, si d'emblée, ils reconnaissaient que le journalisme objectif, ça n'existe pas, à part quand vous donnez la météo, là, OK, du journalisme, c'est forcément intéressé, bien, peut-être qu'on n'aurait pas ce débat-là à savoir si il faut-tu être méfiant, faut-tu essayer de lire entre les lignes et tout ça. Moi, je pense qu'il y a trop d'orgueil dans ce milieu-là. On devrait être capable de reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'il y avait des pommes pourries dans le panier, qu'on s'en est débarrassé, qu'on a quand même une tradition, une richesse dans l'exécution. On a une expérience de travail qui prouve qu'on est quand même fiable. Mais si on dit « non, ce n'est pas arrivé » ou qu'on trouve des excuses quand ça arrive, j'en ai entendu une couple là, dire, par exemple, quand Joe Biden, ça a été montré au grand jour qu'il était, disons, sur le plan de la santé cognitive, beaucoup en déclin, bien, oui. Il disait « oui, mais ce n'est pas qu'on n'en parlait pas, c'est parce qu'on voulait juste mais non, vous n'en parliez pas. Vous n'en parliez pas, donc ça a blessé du monde. Il y a des gens qui sont demeurés méfiants, puis c'est difficile de rebâtir une confiance. Ça prend du temps. »
Mais je pense que c'est intéressant et important ce que tu dis, Rémi, puis on a un devoir à chaque jour de s'auto-évaluer. Hein. En plus, on travaille dans les médias, mais je pense, initialement, dans notre quotidien, peu importe ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on est biaisé. On a assurément des angles morts, puis ça revient sur certaines discussions qu'on a eues. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas parler de l'état cognitif de Joe Biden en se disant « ben on va avoir l'air faible ». Mais le point n'est pas « est-ce que nous sommes faibles de peut-être être plus à gauche au niveau du courant politique du côté des États-Unis ?» C'est « Joe Biden avait des problèmes cognitifs, en a toujours, il est affaibli ». Faut en parler, ça reste un problème politique actuellement. Est-ce qu'on a la meilleure personne au pouvoir pour gérer tous les enjeux actuels qui grouillaient aux États-Unis et qui grouillent encore, on s'entend? Ça ne veut pas dire que c'est Donald Trump non plus, ça ne veut pas dire que c'était Joe Biden, ça ne veut pas dire... Peu importe, c'est des choses dont il fallait jaser. Puis choisir de ne pas en jaser, c'est aussi choisir de rester dans la médiocrité. Je pense...
Absolument. T'as le bon mot. C'est exactement ça. C'est choisir la médiocrité parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui attend les gens. C'est que si c'est mal fait un travail, ça demeure mal fait. C'est une mauvaise copie. Vous avez mal travaillé. Tu sais, Joe Biden, c'était pas le propriétaire de la roulotte à patates frites là, au coin de la rue. C'était le président des États-Unis. Donc, de s'intéresser à sa santé cognitive, il n'y avait rien d'insensible là-dedans, il n'y avait rien de cruel. Et d'ailleurs, on s'est précipité à le faire quand Donald Trump est devenu président, et on le fait avec raison de se demander si cet homme-là est encore qualifié sur le plan intellectuel. Il a l'air de s'endormir des fois lorsqu'il donne une conférence de presse. Il n'y a rien de cruel là-dedans, c'est l'homme le plus puissant du monde. J'espère qu'on se demande une couple de fois, une fois de temps en temps, s'il est bien placé pour faire ce travail-là.
T'sais, on parle de la crédibilité, sinon, honnêtement, dans tous les discours.
Puis tu sais, une autre preuve que le discours journalistique peut être biaisé, J'entends beaucoup des gens dire, depuis que Trump est au pouvoir, il s'attaque à l'université, il y a de la censure dans l'université. Il n'y avait pas de censure à l'université avant Donald Trump. Ah, je ne savais pas ça.
Moi non plus.
Non, mais tu sais, donc il y a ça aussi. Puis je sais que c'est cynique, je sais que ça ne nous fait pas vraiment avancer, mais au contraire, ça nous fait avancer lorsqu'on s'entend sur les bases de la suite des choses. On peut tourner le dos d'une certaine façon à ce qui s'est passé et améliorer nos pratiques. Et la confiance, ça se retrouve. Ça prend du temps. Mais si tu ne reconnais pas tes erreurs, et n'importe qui est capable de le faire, hein? Un plombier est capable de dire qu'il a mal fait sa job. Un peintre est capable de dire « j'ai pas utilisé la bonne peinture ». Un cuisinier est capable de dire « Colin, j'ai mis des arachides là-dedans, c'est de ma faute ». Mais pourquoi un journaliste ne serait pas capable de faire ça?
En effet, je suis tellement d'accord. Honnêteté sur le billet, justement, que ces journalistes ont fait. Rémi, féministe, pour moi, ça sonne positif et je m'explique parce que c'est grâce à des courants féministes qu'aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote, les femmes tendent vers l'équité salariale et les femmes ont les libertés qu'ils ont à l'heure actuelle au Québec et au Canada. Masculinisme maintenant, consulté 8 fois plus en 2025 qu'en 2024. C'est un mot qui, pour moi, pour la population, sonne négatif. Alors que normalement, ça devrait sonner positif comme le féminisme. Comment qu'on explique ça?
Bien, en fait, je pense que c'est un mot qui a été pris en otage. C'est-à-dire que c'est un mot qui a été créé et défini par des gens qui avaient une idée derrière la tête. Puis c'est pas la première fois de l'histoire que ça arrive. Je rassure les auditeurs, là. C'est pas inédit, non. Mais le masculinisme, sur le plan de la construction du mot, si tu viens de le dire, ça devrait vouloir dire à peu près la même chose que le féminisme, mais du côté masculin. Alors qu'aujourd'hui, je ne me trompe pas, je pense, si je dis que masculinisme, il y a déjà un mot qui définissait exactement ce que c'est, puis ce mot-là commence par M, puis c'est misogynie. Mm-hmm. Donc, un misogyne, c'est un masculiniste, puis un masculiniste, c'est un misogyne. Donc, je me demande pourquoi, si on avait déjà le mot misogyne à notre disposition, il était nécessaire de créer un autre mot et de lui insuffler un sens qu'on retrouvait déjà ailleurs. Je regrette, mais des gars, par exemple, qui décident de se réunir entre boys puis de parler de trucs de gars, probablement qu'aujourd'hui, aux yeux de quelques personnes, à savoir combien, je ne sais pas, mais ce sont des masculinistes. Ce sont des gars qui sont entre gars puis qui parlent de trucs de gars. Donc, je trouve ça plate parce que ce mot-là aurait pu être utilisé de la bonne façon. Évidemment, je le précise, le féminisme a une origine et a une vocation à aller chercher des droits, à lutter pour obtenir une égalité. Je veux dire, je pense que les hommes n'ont pas vraiment besoin de faire ça. Donc, je comprends là, l'idée que...
Oui, encore là, je te donne une pause parce que moi, je pense qu'un masculinisme bien assumé, bien fait comme le féminisme a été fait à l'époque, permettrait sûrement à des pères de famille d'aller chercher plus de droits dans des cas de séparation. Puis je t'explique, il a fallu créer un mouvement « cool dad » pour expliquer que les pères, c'était pas juste des tortionnaires, mais qu'ils prenaient cas, soin aussi de leur enfant.
Dans les deux cas, il y a des extrêmes, puis je trouve ça plate qu'on ait stéréotypé la chose. Je viens d'aller retaper sur Google, je viens d'alimenter ces recherches-là, donc, finalement. Puis je me suis dit, OK, ben est-ce que l'assemblage de la définition est finalement stéréotypé et ou péjoratif dans le cas du masculinisme? Puis les premiers mots qui sortent, c'est souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré. Là, je trouve ça plate, parce que dans le féminisme, il y a des extrémistes qui ont pris contrôle de ce mouvement-là, qui était finalement d'avoir un certain droit pour les femmes, de pousser une égalité homme-femme. Puis des fois, il y a eu, de l'exagération dans certains groupes féministes qui étaient plus extrêmes. Puis on le voit aussi dans des groupes masculinistes où j'aurais aimé que ça soit pas péjoratif, puis que ce soit juste des hommes qui disent « Ah, ben là, peut-être qu'à ce niveau-là, nous, on n'est pas en égalité avec la femme. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut avoir une possibilité, finalement, d'avoir les mêmes droits puis de vraiment travailler tous ensemble dans l'égalité? » Il y a quelques années, j'avais fait un clash entre un masculiniste et une féministe, puis c'était pas des extrêmes. Mais ça reculait d'il y a 10 ans, quand j'avais organisé ça à la radio. Maintenant, 10 ans plus tard, automatiquement, on est dans le préjugé, on est dans ce que les extrémistes ont amené comme définition des deux mouvements. Puis on a perdu. Moi, je pense qu'on a perdu.
Ben oui, puis je souhaiterais dans un monde idéal que ce mot-là soit récupérable,
oui,
mais
je pense pas.
Qui va oser dire sur la place publique « je suis un masculiniste »? Attendez, maintenant voici la définition de ce que c'est. Alors, on va lui sauter à la gorge, on va monter le truc pour faire en sorte que son explication ne vienne pas lorsque va être le temps de présenter ce qui s'est passé. Donc, ce mot-là est peut-être perdu à tout jamais, ou en tout cas, bon, l'histoire elle peut nous surprendre, mais pour un bon moment. Donc, maintenant, les gars qui décident de se réunir entre gars, pas à tous les soirs, à la tombée de la nuit, là. Une fois de temps en temps, entre boys, ça existe. Hein?
À taverne.
À taverne, mettons. Puis qui décide d'entretenir un discours positif sur les gars, de peut-être aussi de remarquer qu'il y a des trucs qui ont été perdus, pas aux mains des méchantes féministes, mais peut-être certaines façons de se projeter dans la vie. Parce que c'est peut-être mal vu aujourd'hui. Tu sais, un gars qui décide, par exemple, d'être courtois, élégant, des fois, c'est mal vu. Des fois, c'est mal vu. Donc, peut-être d'en discuter avec des gars, de dire « moi, j'aimerais ça », tu sais, ben, peut-être qu'il va falloir s'appeler autrement, mais il va falloir créer un autre mot. J'espère au moins que cet autre mot-là ne sera pas lui aussi récupéré.
En effet, tu as entièrement raison. Rémi Villemur, je t'adore. Tu nous fais toujours réfléchir différemment. C'est toujours un bonheur de te parler dans l'émission « On en jase ». On se parle jeudi aux alentours de 13h, comme à l'habitude. Je vous souhaite une bonne sortie de sondage à Montréal. C'est demain, je ne me trompe pas. Puis nous autres, c'est jeudi, fait qu'on pourra te parler de nos résultats.
Bye bye tous les deux.
Salut Rémi. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Excellent animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis de 8h à 10h. Bon.
C'est triste, tu sais, en texto, on voit souvent des auditeurs nous commenter en disant tout mouvement masculin est voué à la diabolisation, particulièrement par l'extrémiste féministe. Puis c'est vrai, on devrait tous ensemble travailler pour regarder, bon, où est-ce qu'il y a des manques au niveau de la condition féminine, où est-ce qu'il y a des manques au niveau de la condition masculine, est-ce qu'on est capable de, main dans la main, avancer, puis je veux pas qu'on embarque dans un débat genré.
Non, mais t'as entièrement raison.
Mais on est tous nos alliés rendus, puis je comprends pas pourquoi ça se passe pas comme ça.
Ben, c'est drôle, parce que moi, je me définis autant féministe que masculiniste.
Même chose.
Parce que je suis pour le droit des femmes, je vais toujours militer pour ça. Puis là, tu sais, je peux t'en nommer plein, le droit à l'avortement, etc.
Puis je pense que par le manque aux femmes dans les dernières années, dans les décennies, il y a des hommes qui ont vu ça aller puis qui ont fait « ben non, ça peut pas être comme ça ». Sans eux, là, il y aurait pas tous ces droits de la femme-là qui ont été rétablis.
Pas pour rien que je suis laïque puis que je prône la laïcité. La religion faisait en sorte qu'elle faisait un clash entre les hommes et les femmes et qu'elle rabaissait la femme.
À chaque fois que je parle de mon métier en tant que tel, moi, je suis entrée là-dedans, j'avais 19-20 ans, Jeff. C'était tout du monde de 40-50. C'était presque tous des hommes autour de moi. Les femmes étaient confinées. Pour certaines, elles adoraient ça, puis c'est correct.
Ouais, ouais.
Mais à la culture, à la météo.
T'as tellement
raison. Moi, je me souviens
de
ma grand-mère qui dit, il y en a plein, des femmes dans les médias, check comment c'est le fun, ils font la météo, puis ça. J'étais comme, moi, c'est pas ça que je veux faire. Puis t'es comme, ben, tu peux faire ce que tu veux.
Non.
Mais ça, c'était une femme. Sauf qu'il y a des hommes qui m'ont laissé participer aux émissions, qui m'ont pas demandé d'être une yes woman, qui m'ont pas demandé. Et tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus de femmes qui ont eu cette voix-là pour jaser politique. T'as des Jeannette Bertrand qui ont pavé une route, mais qu'il y a des hommes qui ont fait « Hey, Madame Bertrand, go! »
Ouais.
Et on vous le donne, le poste.
Imagine, il n'y a même pas eu encore une présidente aux États-Unis.
Mais c'est un, mais c'est un travail de société, puis c'est un travail de main dans la main entre les sexes. On ne devrait jamais diminuer un homme qui dit « Hey, là-dessus, on dirait que je me sens pas égal à ma conjointe ou à ma collègue. » Mais non, on devrait s'écouter.
T'as entièrement raison, Gav. On a un excellent texto ici. Le masculinisme parle aussi des tabous et de la fragilité de l'homme. Tellement
absolument
vrai. T'es en santé mentale, les gars, il fallait toujours être fort.
Oui.
On n'avait pas le droit de démontrer nos émotions. On était le poteau de la famille. Puis, vas-y, avance. Même si ça fait mal, on refoule ça en dedans. Puis, continue, va travailler, amène l'argent à la maison. T'sais. Alors que c'en est tout autre. Là, puis, quand les hommes s'ouvrent maintenant, on trouve ça beau.
Oui. C'est émouvant, c'est touchant, c'est rassembleur, c'est humain. Moi, je prône ça, qu'on tende la main, puis qu'au contraire, hommes et femmes ensemble, on déplore les mouvements extrémistes.
Oui.
Parce que de toute manière, ça n'a jamais ouvert plus de portes. Ça en a fermé, puis ça a mené à des comportements violents.
Exactement, t'as entièrement raison. Oui, on propose aussi « gentleman », le nouveau mot positif pour le masculin. « Gentleman », la bienveillance pour tout le monde et le vivre ensemble, j'adore.
C'est pourquoi, moi, « gentleman », j'adore moins?
Pourquoi?
Je trouve que ça vous met une responsabilité envers nous.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Mais je vous adore quand vous l'êtes, là.
Mm-hmm.
Puis moi, j'aime ça prendre soin de vous aussi, à ma manière. Mais je veux pas que vous ayez de pression. je vais aussi être vous dans tout ce que vous, vous voulez et souhaitez être.
T'sais. Ouais, t'as raison que... Hey, t'amènes un tabou intéressant que... Est-ce qu'en couple, c'est plus à l'homme de démontrer ces signes-là?
Encore dans l'égalité. Par contre, moi, je suis l'ironie du sort, Jeff. Mm-hmm. Ça me charme.
Ben, c'est clair.
Ça me charme. Je serai jamais celle qui va être offusquée qu'on m'ouvre la porte, même si je suis très capable de l'ouvrir, ma porte.
Mm-hmm. Mais c'est clair.
Mais jamais je vais m'attendre à ce qu'un homme le fasse.
Mm-hmm.
Il n'y a non, pas à c'est... me protéger, il n'y a pas à...
Mais t'as raison, mais t'as raison.
Ça, ça m'appartient. Là.
Mais t'as raison que ça vous charme, puis je me demande si c'est pas...
Une conception de société.
Ouais, c'est ouais. ça, ancré dans nos mœurs.
Je pense que oui, parce qu'il y a une protection, il y a cette façon-là qui était de courtiser mm-hmm. autrefois. Je pense qu'il y a encore beaucoup l'esprit paternel dans une famille qui est de protection, qui est de pourvoyeur, ouais. qui est de... Puis tranquillement, pas vite, je veux dire, avec l'émancipation de la mm-hmm. femme, il y a des hommes qui ont décidé qu'ils étaient hommes à la maison puis qui aiment ça, puis qui s'occupent bon, du oui. foyer. Il y a des femmes qui s'en vont travailler. Il y a des, les deux partenaires, justement, qui mènent à terme un beau foyer, une maisonnée, les vacances, la protection des enfants. Tu sais, je pense qu'on est tous en train de trouver notre place. Puis j'ai ma place en me disant que ça me charme, mais j'ai aussi ma place en me disant que je peux l'ouvrir moi-même, mais je suis jamais choquée de ça.
Non,
je pense qu'il faut accepter qu'on est en train de modéliser là, la société comme chaque individu l'aime, souhaite, puis on se trouve là-dedans.
Ben
on se
oui.
trouve au professionnel, on se trouve au personnel, entre hommes et femmes, puis on décide de créer ce qui nous plaît.
Non, t'as raison, parce que tu sais, moi, j'ai toujours eu des conjointes qui ont de la drive, là, tu sais, qui sont ouais. full autonomes.
Ça, t'aimes ça.
Très professionnelles, tu sais, que leur carrière prenne place prépondérante dans leur vie. Mais en même temps, dès que je fais un petit geste de courtoisie, c'est, je le vois que c'est apprécié. Hyper apprécié.
Puis d'autres hommes préfèrent une femme peut-être, puis d'autres femmes préfèrent ouais. aussi un homme où ben, l'homme prend un petit peu plus de disposition, s'occupe de préparer mm-hmm. les choses. T'sais, je pense pas que c'est une affaire de sexe, je pense une affaire de partenariat.
Ouais,
c'est quoi
raison.
Tes forces, c'est quoi tes faiblesses, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait sentir bien dans une relation. Ça devrait pas être des concepts préécrits, puis on devrait se respecter aussi mm-hmm. là-dedans. Si moi, du jour au lendemain, je décide, je sais pas, moi, je deviens anxieuse, puis le fait d'avoir un partenaire qui prend plus de choses en main, ben ça me fait sentir bien relationnellement, ouais. ben ça sera ça. C'est mm-hmm. ça. Fait que, est-ce qu'on est en train de devoir pointer du doigt une femme qui a un partenaire qui prend plus de choses en main, qui est plus, comme on dit, paternel, qui est plus pourvoyeur? Je pense pas qu'on devrait pointer non. ça du doigt au même titre qu'un homme qui décide de lui s'occuper de la famille. Mm-hmm. Par sa carrière, ça n'a jamais été une passion, ça n'a jamais été quelque chose qui a été plus important pour lui. Il veut une famille, c'est, il aime Mais... ça, puis sa femme adore sa carrière. Mais je pense pas qu'on devrait encarcaner
Non,
des
non, t'as raison. Mais c'est vrai que tu revires la situation à l'envers, là, que dans un couple, la femme va être PDG d'une grosse entreprise, puis ça va être le gars qui va avoir l'horaire, qui va faire en sorte qu'il va toujours chercher les enfants à la garderie, oui. qui prépare à souper, puis qui donne le bain, là, et qu'il y a du monde qui vont se poser des questions.
Puis pourquoi?
Puis pourtant, on devrait pas se poser ces questions-là.
Ça sert à quoi de regarder chez le voisin?
Ah non, t'as raison.
Dans ton couple, ça change rien.
Ça change
dans
rien.
Dans ta façon de vivre, ça change rien.
Oh non, non, non.
Ça pis t'enlève moi. Et te donne rien.
Puis moi, de toute façon, les décisions de couple et de famille, pour moi, appartiennent au couple et à la famille, dans le sens que l'important, c'est que ces gens-là soient heureux ensemble.
Puis au même titre qu'on devrait être tous ensemble, hommes et femmes, déplorer un droit de vote qui est contesté,
mm-hmm.
le droit à l'avortement qui est contesté.
Mais clairement.
Les pensions qu'un homme paie plus qu'une femme par son sexe.
T'as raison.
Le fait que la garde automatiquement est plus facilement laissée à une femme qu'à un homme des enfants lors de séparation.
T'as tellement raison.
Quand il y a des hommes qui sont beaucoup et de beaucoup meilleurs dans leur rôle parental mm-hmm. que certaines femmes, ensemble, main dans la main, on devrait s'élever puis contester beaucoup plus et déplorer beaucoup plus ces inégalités-là pour faire avancer la société.
Ah, je suis avec toi à 100%. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence de sexe, tu sais, dans le, je vais le dire comme ça, dans la profession que tu vas faire, dans la façon que tu vas organiser ta vie, dans la façon qu'en tant que couple et famille, vous allez organiser les choses. Moi, pour moi, il n'y a pas de sexe. Il y a juste deux adultes qui sont ensemble puis qui prennent les meilleures décisions pour les deux et quand ils ont des enfants pour leur famille, ensemble.
Tu sais, moi, je pense que de plus en plus en vieillissant, là, le raisonnement que j'ai face à ça, quand quelque chose dérange, là, c'est que tu es confronté à toi.
Mm-hmm.
Tu es confronté à quelque chose que toi, tu n'as pas,
ouais,
que toi, tu envies ou que t'es pas capable de vivre avec parce que tu le sais très bien que ça sera jamais dans la tienne.
Ouais.
La jalousie. La jalousie d'un salaire. « Hey, moi, mon boss, un héros dans sa grosse Mercedes. » Oui, il a bien monté sa compagnie. L'as-tu
ben
fait,
oui,
toi?
C'est ça.
Ça te dérange, pourquoi?
Hey, ça, c'est vrai.
Après ça, le couple à côté, mettons.
Ouais.
Il sépare, OK? Puis là, toi, tu vois ta blonde, puis je vais prendre l'exemple, ta blonde qui a mis fin à la relation avec un nouveau chum, puis elle est heureuse.
Mm-hmm.
Ben, t'es en maudit, fait que tu vas essayer, tu sais, pour certains, d'y faire la vie dure. Ouais. Parce que toi, t'as pas cette vie-là.
Oh oui.
L'énergie que tu mets à haïr l'autre te donne rien, ben te fait même pas grandir.
Mais la construire ton nid à toi.
Exact. Puis c'est difficile.
Ben oui, c'est difficile.
Puis c'est pour ça que les gens manquent de courage. Parfois, c'est parce que c'est tellement difficile, ça prend de l'énergie.
Clairement.
C'est une gestion d'émotions.
Ben, travailler sur soi, c'est-tu pas l'affaire la plus tough dans la vie?
C'est la chose
penses?
La plus épouvantable. Premièrement, s'en rendre compte de
ben
nos
oui.
torts et nos faiblesses. Puis deuxièmement, travailler en ce sens-là.
Ouais.
Mais on se laisse toujours déconcentrer par ce qui est ailleurs que dans nous.
Ouais.
Le moment où tu arrêtes d'être victime dans ta vie, c'est le moment où tu évolues.
Mm-hmm. Oui, puis là, la faute est toujours sur l'autre.
Fait qu'arrêter d'être victime du sexe différent, puis de l'homme ou de la femme, ou de puis construisez-le.
Ben oui.
Votre fort intérieur, puis votre tout ce que vous voulez, votre carrière, votre maison, comme ça vous fait sentir bien. Mais ça, je veux dire, ouais. c'est dans l'entraide des autres. Pis...
Votre vie vous appartient, les amis.
Ben oui.
Let's go! Construisez votre beau nid positif. Vous en pensez quoi? 418-971-1021, on va récolter vos commentaires. Et également, Pascal, ben c'est le temps de gâter nos auditeurs.
Oui, puis je l'aime ce concours-là parce que parlons-en des gens
oui.
qui travaillent pour les autres puis qui pensent aux autres puis qui décident.
Puis là, ça peut être un gars ou une fille.
Oh oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est n'importe qui va participer au concours qui va réussir probablement à mettre la main sur un des beaux tirages qu'on va faire dans tout le mois de décembre. En fait, c'est avec la fromagerie Victoria. C'est pas juste la reine des poutines dans la fromagerie Victoria. C'est aussi la reine des repas maison prête à apporter. Quand vous avez des journées difficiles, des journées pressées, des soirs où ça finit plus, avec les horaires des enfants un peu partout, ou tout simplement pas envie de cuisiner. Pas tout le monde qui aime ça.
Ben non.
Le comfort food par excellence, c'est à la fromagerie Victoria. Puis là, on a un beau panier cadeau de 150 $ à faire gagner immédiatement ce midi. C'est une lasagne, un pâté chinois, un pâté au saumon, un pâté à la viande, un pâté mexicain, le meilleur, une tarte au sucre et un kilo de fromage en grains dans ce panier-là. Et là, on veut connaître les ingrédients qui donnent du kick à vos repas pour participer. Aujourd'hui, je veux savoir ce qui donne un petit kick dans votre pâté mexicain. Qu'est-ce qui vous donne envie de le faire parce que vous savez qu'avec cet ingrédient-là, c'est vous qui avez le meilleur pâté mexicain. Au 418-971-1021, écrivez-nous votre ingrédient maison là, que vous ajoutez à la recette de pâté mexicain. Puis vous allez courir la chance de gagner ce panier cadeau-là de produits maison d'une valeur de 150 $ de la fromagerie Victoria.
Tu me donnes faim, Pascal CV. Alors, 418-971-1021, donnez-nous faim avec votre pâté mexicain. Hey, Val en a fait dernièrement. Oh, son écœurant.
C'est tellement bon, là. Oui. Je trouve que c'est trop oublié.
Exactement. C'est vrai que c'est oublié, ça, dans le temps des fêtes. T'as raison, à 100%. Pascal, par texto, on dit que tu devrais donner des conférences motivationnelles. Ça crinque. Magnifique.
Ouais, je continue de faire de la radio, ça vous dérange
plus. Ouais, ou... non. C'est ça l'émission d'En Jase. Hein? On part des fois sur des sujets comme ça. On est très emballés et on aime ça quand vous participez au 418-971-1021. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, Pascal, on va revenir avec une petite fin d'émission bien rapide.
Ça va. Hey!
Oui, c'est
sérieux?
Ça. Oui, ouais, c'est ça. On
okay,
s'est emballé.
Voyez-vous,
dans
je ne ferai pas de conférence en même temps. Je devrais, je n'arrêterai pas de
scraper. Moi, juste te parler du Canadien en soir. Ça a de l'allure, ça? Courte pause à Boulevard 101. On revient à l'émission, on en jase. C'est vrai qu'on jase pas à peu près.
Hey, mon Dieu, ça va.
Vous attend chez Marlin Chevrolet au 2145 rue Frank Carrel.
Voyager gratuit et sans bagages, c'est le rêve de tous et la maison anglaise vous l'offre à l'heure actuelle. Venez nous visiter à Place de la Cité, c'est facilement accessible en voiture, en bus, à vélo ou même à pied. Ou faites le voyage sur le web au www.lamaisonanglaise.com. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre? Bien, on va pouvoir vous aider à visiter Paris avec Emma Donahue. On va voyager en enfer avec R.F. Kuan. On va manger un sandwich avec Gordon Ramsay. Ou encore, on va découvrir comment tout le monde dans ma famille a tué quelqu'un. Votre imagination est la seule limite. Et en plus, avec la Maison Anglaise, vous achetez local et vous voyagez dans le monde entier dès aujourd'hui. On a des centaines de livres en magasin, je le rappelle, qui est situé à Place de la Cité, et aussi des milliers de livres audio en ligne pour vous amener n'importe où à lamaisonanglaise.com.
À Noël,
C'est déjà la fin de cette belle émission, Pascal CV, qui passe oui. beaucoup trop rapidement.
Oui.
Demain, soyez des nôtres, on va être là à midi encore une fois avec l'émission. On en jase, c'est le retour de Denis qui suit avec Denis Véro, Audrey Malade. Elle avait mal hier quand elle parlait. Elle fait bien de prendre une petite journée de repos. Et vous rappelez que le Canadien de Montréal joue ce soir contre Lightning de Tampa Bay. Tampa Bay qui sera pour un deuxième match en deux soirs. Ils ont perdu 2-0 hier contre les Maple Leafs de Toronto. C'est Jacob Dobesch qui va avoir un quatrième départ consécutif. Sam Montembeault semble pas filer encore. Donc lui aussi est malade. Oh, est-ce que Sam Montembeault a rencontré Audrey Pinchot? Ça y est, on part des rumeurs.
Non, non, mais hey, pour vrai, tout le monde est malade cette
année. Ah oui, vraiment.
Je me demande, ça va être notre tour quand? J'espère pas là parce qu'on est dans un rush professionnel.
Ouais. Ah ben c'est ça, la semaine prochaine, on est le matin puis le midi. Il faudrait qu'on soit en forme. Donc, restez avec nous. C'est le retour de Gravel par la suite. Marceau le soir et on revient également avec la programmation régulière demain matin, notamment avec Marceau le matin et le point de Max. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 102. On se reparle demain. Ciao, bye!
Bye!